Alien et les garçons, épisode 52. Bienvenue dans 3 mondes meilleurs.
Bienvenue à bord d'Alien et les garçons en présentiel au château à l'ancienne. Bonjour Florian.
Bonjour Thomas.
Bonjour Vic.
Bonjour Thomas.
Comment ils vont ?
Bah ils vont bien.
Ils vont présentiel ?
Ils vont présentiel et ils en profitent un peu parce que c'est pas fait pour durer après.
Non, en fait on enregistre littéralement à quelques heures avant que Jean Castex nous confine.
Avant que Jean Castex il vienne au château.
Jean Castex, mais Jean Castex il est là, il est à la porte, il nous attend.
Il est en fait, ouvrez, allez les garçons. Je vais faire l'accent du sud à chaque intro de
C'est vrai.
C'est mon nouveau truc. Alors épisode à l'ancienne parce que donc réuni au château en présentiel, on vient de le dire, parce que Jean Castex va nous enfermer, et aussi à l'ancienne parce qu'une certaine proportion, une certaine portion des chroniqueurs présents autour de cette table sont en lendemain de fuite.
C'est
et
vrai,
ça fait longtemps fait qu'on a pas enregistré
une
lendemain
bonne
de
partie,
fuite.
Hein, une bonne
et
partie d'ailleurs.
Alors, deux tiers, je crois.
Deux tiers, oui. Deux tiers. On a le lendemain de fuite et on a aussi des chroniques qui vont repartir en live n'importe comment parce qu'on on a décidé d'arrêter de les enregistrer parce que les gens nous ont dit que c'était mieux.
Que c'était mieux.
Du coup, on a dit bon bah on va refaire pire. On va refaire comme avant.
Exactement. Les gens, on y a des gens qui ont dit que c'était pas mieux et des gens qui ont dit qu'ils aimaient mieux quand c'était en live. C'est pour ça que la mienne, je l'ai pas faite en live parce que je méprise nos auditeurs. Non, mais on y viendra plus tard. J'ai un conducteur. Ok, vous êtes prêts? Quel est le thème du jour, les amis?
Engueulé.
Le thème du jour, c'est quoi?
En 2021.
En 2021.
Enfin, en AN. Ouais.
Alors, je suis un peu embêté parce que je sais plus qui nous l'a donné.
Ah.
C'est la première fois en 52 épisodes. Je ne sais vraiment plus. Et
c'est
j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et en fait, je crois de mémoire. En plus, c'est un thème qu'on s'est donné il y a longtemps. Enfin, vraiment, on prend un peu d'avance. Mm-hmm. Vous vous en doutez bien qu'on n'écrit pas. Enfin, autant on écrit la veille.
Mais les thèmes, on les choisit deux ans à l'avance.
Ouais, exactement. Et vrai. En fait, je suis presque sûr que la personne qui nous l'a donné, c'est un habitué qui papote avec nous un peu régulièrement et qui nous envoie des messages, en tout cas, etc. Et je me suis dit, pas besoin de le noter, je vais me rappeler que c'est lui ou elle. Évidemment, j'ai oublié.
Pas de bol.
Donc, toi qui nous as donné en 2021, que tu sois un habitué ou pas, on s'excuse officiellement, désolé. Et renvoie-nous un message et on te. Comment dire, l'épisode prochain, on.
Mieux qu'un message,
on lui fera une chanson.
Mets un emoji aubergine, du coup. Parce que ça a vachement bien marché, l'emoji main levée.
C'est vrai. On a vu les vrais, quoi. On a vu les vrais.
On a vu les vrais.
Mais du coup, ça doit être un auditeur qui a communiqué avec nous en 2021.
Oui.
Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il a fait plus 1000 ans,
vrai.
Donc c'est forcément cette année.
Oui, oui, tout à fait.
Juste pour ton enquête.
Ça doit être un thème assez récent, effectivement. Je ne sais pas. Écoute, auditeur mystère, signale-toi.
Avec un emoji aubergine.
Ou genre, juste voilà. Ouais, toi, t'es bizarre avec tes emojis. T'es bizarre, Florian. Bon, bref. Est-ce que ce thème vous a inspiré? Quelle chronique allez-vous nous raconter? De quoi parle ta chronique, Florian?
Ah, j'ai pas préparé cette fois-ci.
Ma chronique,
elle va vous parler
titre,
de quoi? Ça s'appelle L'Évangile selon Ziggy Spitfire.
C'est bien, aime bien. C'est toujours un peu religieux, Aline et les garçons.
C'est vrai, surtout cette chronique-là. C'est une chronique un peu religieuse.
Encore un grand effort sur le nom.
Le naming.
Oui, c'est vrai.
De toute façon, je pense qu'on va bientôt faire que donner des noms aux choses. Mais moi, je pense qu'on pourrait même presque, peut-être idée d'hors-série, où on prend les choses ou les choses du monde et on leur redonne des noms plus valables.
Ah oui, c'est
ça. Et on dit
mal.
Non, Jean Castex, c'est nul. Il faut l'appeler Jean Perpignan. Tu vois, c'est beaucoup mieux. Tu vois. Et la menthe, non, ça ne devrait pas s'appeler la menthe, ça devrait s'appeler du bouboulou. Bon, voilà, c'était un exemple. Pas forcément le meilleur soit.
On réfléchira un peu.
Voilà, exactement. Nick, de quoi parle ta Krovic?
Macrovic parle va sans doute pas rentrer au panthéon de la littérature d'Alien et les garçons ou être dans la prochaine édition de notre livre parce que c'est pas une fiction, pour une fois. Et donc moi, je me suis noté, c'est simplement, de manière tout à fait humble, une réflexion sur la cartographie identitaire, psychologique et sociale des êtres intelligents pour comprendre la manière dont ils passent le temps. Voilà.
C'est très la pipe là.
Voilà. En deux, trois. Mais oui, tout à fait.
Putain,
c'est très, très la pipe.
J'essaie
de te voler la pipe.
Mais vole-moi la pipe. Hein. Moi, j'essaye de. Justement, je vais.
Parce que j'ai compris, c'est que toi, c'est pas trop la pipe.
Non, alors moi, c'est pas la pipe du tout. C'est justement parce que moi, j'essaie de casser mon image de prof de latin. Et dernier épisode, on m'avait traité de gothique. Enfin, Vu que j'ai révélé que j'étais sataniste à la fin de l'épisode. Donc,
c'est vrai.
Mais non, mais surtout, vous avez pris ma chronique pour un appel à l'aide.
Ah,
et donc j'ai décidé pour vous faire mentir et un peu vous rassurer de faire une chronique dystopique plutôt utopique en fait. C'est du post-apo. D'accord. Mais pas comme vous le croyez et ça va faire mentir. Vous allez voir, elle s'appellera Good Radiations et ça va être que du feel good. Et effectivement, ce sera pas la pipe parce que la personne le narrateur est demeuré. Il parle un peu comme ça.
Ouais, il y en a qui.
Vous verrez.
Ça peut aller avec.
Vous verrez, c'est justement moi qui vais commencer tout à l'heure. Mais
on commence avec des bonnes vibes et on va finir sur ma chronique, je crois. Et la
mienne, tu vas détruire le monde encore.
Ah ouais, moi c'est la colère, moi.
Très bien.
Moi, elle est pleine de colère cette chronique.
Très bien.
Mais ça va varier un peu.
Il faut varier les plaisirs. Aline et les garçons, c'est comme un buffet. Tu vois, et toi, toi, t'es la salade un peu froide qui fait mal, et moi, je suis les frites.
Et tu vois. T'es la salade de pâte avec trop de sel. Ou pas assez de sel, un truc qui tu non, prends quand tu recraches, tu fais qui sait qui a mis trop de sel.
Non, j'aurais dit un dessert au piment, tu vois. Ah. Je suis sur la faim et je suis en colère.
T'as
je suis
un dessert gâteau au piment. Ouais.
On est en train de faire un portrait chinois. Ouais,
et justement, on va faire le portrait chinois. Juste d'abord, je voudrais faire une parenthèse. C'est un étron.
Ouais. Oui.
C'est le lendemain de fuite qui me fait parler d'étron. En parlant d'étron, justement, mea culpa, j'ai dit n'importe quoi à l'épisode précédent. Donc, je fais juste une parenthèse pour le dire. Ça arrive tout le temps que je dise n'importe quoi. Que nous disions n'importe quoi. Simplement, cette fois-ci, c'était encore plus n'importe quoi. Pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est pas grave. Lénine n'est jamais mort au Mexique. C'est Trotsky qui est mort au Mexique.
Mais t'as quand même fait caca chez Trotsky.
Oui. Le tractatus philosophie. Je me rappelle même plus. En tout cas, le bouquin de Wittgenstein que j'ai nommé, il s'appelait pas comme ça. C'était autre chose que j'ai encore oublié. Je vais pas refaire un voilà logico-philosophique. Je sais plus, je l'ai plus. Bref, on a dit beaucoup de bêtises. Surtout moi, je suis vraiment désolé. C'est une humiliation totale. Pour me faire pardonner, portrait chinois des Gringos tout de suite. Si vous étiez membre d'une secte, qui en serait le gourou? Je commence par Vic, mais je peux commencer par Florian si vous voulez.
Bah, au moins, ça me permettra de réserver mon gourou si vous l'avez choisi aussi, parce que je sais que c'est quelqu'un qu'on respecte tous les trois. J'ai envie de dire, je vais vous le laisser découvrir. C'est notre astrophysicien préféré.
Roland Luc.
Ah, et toi, t'as hésité avec Jean-Sébastien Steyer.
Il n'est pas astrophysien.
Ouais. J'ai hésité entre Steyer et Roland Luc.
Je préfère Steyer, je crois.
Mais le truc, c'est qu'en fait,
il est un peu cool.
Mais il n'y a pas très longtemps, de Roland Luc, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le président des Utopiales de Nantes, il est astrophysicien et c'est un vulgarisateur scientifique qui est très cool. J'ai regardé une conférence de lui sur YouTube il y a une semaine environ. Pourquoi le soleil brille? Je vous invite à regarder, c'est très intéressant. Mais je vais pas rentrer dans les détails là tout de suite.
Pourquoi le soleil brille?
On dit que la pipe c'était après. Ouais, c'est pourquoi le soleil brille. Il a un petit PowerPoint. Il est sur une scène. Vu qu'il y a Covid, il y a personne dans l'assemblée. C'est de façon, t'as l'impression c'est live à Pompéi quoi. Il y a personne. Il est tout seul et il fait défiler son PowerPoint.
Roland Le Houk live à Pompéi. Pourquoi le soleil brille?
Et tout va bien. Et là il fait défiler son PowerPoint et il t'explique et il est vachement intéressant. Et je vous conseille cette conférence sur YouTube. Elle est très facile à trouver.
Bref, merci beaucoup. Écoute, t'as un excellent gourou. Je l'aime beaucoup aussi. Florian, quel est ton gourou?
Moi, mon gourou,
c'est Pikachu.
C'est Shigeru Miyamoto. C'est pas loin, effectivement.
C'est qui?
Bah, c'est le creative director de Nintendo. Qui a fait Zelda, Pokémon, Mario, Shigeru Miyamoto.
Je connais pas sa personnalité. Il est un peu gourouesque, il est un peu commandant.
Il est très charismatique et tout le monde le considère comme un peu le papa, tu vois, chez Nintendo. Mais je crois qu'il est mort. Ne cherche pas.
Shigeru Miyamoto, il va bien.
Ah, il va bien. Autant pour moi alors.
68 ans.
Ah bah ça va.
Alors. Il est un homme d'affaires.
Mais t'as vu sa tête? Il est beau comme un ange, non? T'as envie de le suivre, toi? T'as envie de le suivre.
Ah, autant pour moi.
Non. On n'est pas dans la pipe encore. Non, t'as envie de le suivre. T'as envie d'écouter ses idées et de faire. Ok, pourquoi pas. 150 bestioles qu'on va capturer sur. Mettre dans des boules et jeter sur des gens, pourquoi
c'est
pas?
C'est magnifique.
Écoute, bonne idée.
Et il a géré tous ces projets-là. Enfin, c'est vraiment le mec qui gère tous les projets de Nintendo.
Je pense qu'il s'est entouré de bons talents, mais voilà.
Exactement.
Ouais, mais bon, quand même. Mais il a la vision.
Ouais, c'est bien.
C'est lui qui a inventé Mario, quoi. C'est pas déconnant.
Ah, mais c'est pas lui qui a inventé Pokémon alors, si?
Bah, si aussi.
Ah bon?
Il a pas inventé Pokémon.
C'est un gars qui a inventé Pokémon qui s'appelle je sais plus comment. Il voulait faire ça avec des insectes au début.
Exactement. Mais sauf que du coup, je crois que c'est aussi Shigeru Miyamoto.
Non.
Pour cause. Si, si.
Non, c'est un autre gars.
Non, c'est un autre gars.
C'est très approximatif encore.
Pour de vrai, c'est un autre gars.
Dans tous les cas, Shigeru, il arrive, il fait genre. Ça c'est bien, parce que ce caca que t'as dans les mains, il est super bien. Je vais le tailler, je vais le polir, ça va devenir un diamant.
L'autre gars, il voulait faire ça qu'avec des insectes, parce que comme ses enfants, ils capturaient des insectes, je sais pas quoi. Et lui, il a dit non, mais fallait plus loin que ça et tout. Bon, de toute façon, je crois que cet épisode va être très chaotique. Et c'est déjà parti pour ça, parce qu'on s'est retrouvés, on est contents, mais c'est bien. Si vous n'aimez pas, et bah écoutez, tant pis. Voilà.
Mais ils vont aimer. À partir de quand tu vas dire ton gourou?
Bah alors moi, j'ai beaucoup hésité.
Tous tes gourous.
Alors j'ai beaucoup hésité, évidemment. Donc je vais juste faire le point Lévin tout de suite. Comme ça, il faut un point Lévin. Hein. Mm-hmm. Donc, premier gourou potentiel, Gurion Maccabi, personnage des instructions de Adam Lévin, qui est évidemment lui-même peut-être le Messie dans le livre, donc il se pose la question. Donc, quel est le meilleur gourou? Mais en vrai, mon vrai gourou, et c'est pas original, mais je le dis quand même, c'est David Foster Wallace. Parce que ses vidéos sur YouTube, c'est juste tu les bois, quoi. Mm-hmm. Tu les bois comme du petit lait. Ou comme,
enfin, faut pas être fatigué. Parce qu'il a une manière de parler assez monotone.
Et puis
souvent, c'est intéressant.
Ça fait un peu réfléchir. Mais je pense que c'est lui mon vrai. Après, j'ai quand même hésité avec Fibre au Tigre. Parce qu'en vrai,
j'étais persuadé qu'il allait dire Fibre au Tigre.
Entendez-vous?
C'était quoi?
C'était le bruit de ton gourou, Thomas.
Ah putain, il y a eu un message. J'ai pas entendu. Mon casque déconne. Donc, bon, il y a eu un truc, c'est pas très grave. Si, c'est grave.
Non, c'est pas grave.
Et ouais, dis-moi, Florian.
Bah, j'étais persuadé que tu allais nous dire Fibre Tigre, justement.
Non, non, parce qu'il a aussi, voilà, c'est pas David Foster Wallace, quoi. Mais c'est vrai qu'il a ce côté gourouesque, il a sa communauté et tout. Puis le mec est plutôt intéressant dès qu'il ouvre la bouche, donc c'est pas mal.
Ouais, en tout cas, voilà. Effectivement, il a un vrai côté gourou, très charismatique. Quand tu l'écoutes, t'as envie d'en savoir plus, d'en apprendre un peu plus.
Et puis en même temps, il a un nom déjà de gourou. Il a pas
Fibre Tigre.
Ouais, Fibre Tigre.
Vrai, je pense que c'est pas son vrai nom.
non, c'est pas son vrai nom.
J'en avais d'autres, mais on va pas s'étendre.
T'en as déjà fait deux, ça va.
Ouais, puis j'en avais trois. Donc je vais pas vraiment on va pas s'étendre. Qu'est-ce que je voulais dire, on va continuer, on a beaucoup de choses à vous dire. On a une mauvaise nouvelle à annoncer aux auditeurs concernant concernant les machines à café. C'est ça le bruit qu'il y a eu tout à l'heure, c'est ça?
Tout à fait, elle galère un peu.
Ouais, épisode de pour le moins chaotique, on va même pas couper ça, on s'en fout. Mauvaise nouvelle, mais c'est pour l'avenir. Bonne nouvelle pour nous, c'est que là, on est donc entre la vida loca, la vida covida, la vida travaya, la vida podcasta, on n'y arrive pas en ce moment, donc on a décidé de finir la saison au moins, et peut-être plus après, on verra, en mensuel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 ou 4 épisodes pour finir l'année, vous en aurez 2 ou 3.
3
peut-être.
J'en sais rien. En tout cas, un par mois. Mais en même temps, vous, ça vous choquait pas, vous, qu'on fasse un épisode toutes les 3 semaines? C'est bizarre, 3 semaines, non?
Oui, mais c'était ça qui était bon.
C'est ça qui était ouf. Bah, c'était, en même temps, c'était très bien, les garçons, quoi. Tu vois, toutes les 3 semaines. Limite, on aurait dû faire tous les 11 jours ou un truc pas possible, tu sais. Genre,
on peut encore faire ça. Plutôt qu'un mois, on peut faire tous les 32 jours. Ouais, c'est tout bien chiant, non, tu vois.
Pour finir l'année, faisons déjà. Voilà. Donc là, on va sortir l'épisode. On sera en fin mars. On en sortira peut-être un en avril, mai. Et après, juin, je sais pas, on verra si on part en vacances ou pas. Mais. Après, oui, à la rentrée, si on se dit, on fait un épisode toutes les 35 jours et 8 heures.
Par exemple. On a intérêt, par contre, d'être super précis.
Ouais, on n'y arrivera pas.
C'est chaud.
Pourquoi ça comme tu dis, parce que c'est compliqué. On a plein de choses à faire. Et surtout,
puis on veut garder la qualité aussi.
On veut garder la qualité et on vous parle régulièrement de plein de projets d'Alien et les garçons.
On n'arrive pas à les avancer.
On n'a pas le temps de faire, de produire, à travailler et tout. Du coup, c'est chiant. C'est dommage.
Et cette semaine, en plus, pour nous, elle sera mise à bon escient. Elle sera utilisée à bon escient. On va l'utiliser pour certainement avancer notre projet. Plusieurs projets pour le podcast et peut-être même d'autres trucs, on verra, mais ça va nous faire du bien parce que sinon on risque tout simplement le burn-out et vous voulez pas avoir des morts sur la conscience quand même.
Non, exactement. Non.
Bon, bah voilà. Donc voilà, et donc quoi d'autre? Cet épisode il finira avec la masque et la pipe, qui est donc la rubrique recommandation d'Aline et les garçons, qui a été reconnue d'intérêt général par
Jean Castex.
Exactement.
Par Jean Perpignan.
Par Jean Castex. Et voilà, donc on va écouter nos trois chroniques. Deux en live, deux, une pas en live. La mienne en première qui sera pas en live. Les deux autres en live, on est content, on va s'applaudir, se jeter des fleurs et des
cacahuètes.
Des cacahuètes. Et attaquons tout de suite.
Allez, c'est parti.
Good Radiations. La vie, elle est très belle. Aussi, des fois, je dis qu'elle est très 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 belle. Mais bon, je veux pas avoir l'air de frimer, alors le plus souvent, je dis juste qu'elle est très belle. Ou alors, très très belle. Mais jamais trop, très 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 belle. Ça fait frimeur, et je veux pas que j'ai l'air d'avoir l'air de frimer. La vie, elle est très très belle. Je peux pas dire que je sais grand chose dans la vie, mais ça, que la vie est très très belle, ça oui, je le sais. Je me le dis tous les soirs quand c'est qu'on se réunit avec les autres communautaires pour regarder les étoiles. Elles brillent si fort, et elles brillent si nombreuses aussi, que je me dis que la vie, elle est très belle. Et puis quand c'est qu'une chouette radioactive passe dans le ciel et qu'elle laisse une jolie traînée verte brillante derrière, eh bien je me dis que la vie, elle est très très belle. Parfois même, je pleure un petit peu tellement que la vie, elle est très belle. Les autres communautaires et moi, on est vraiment très très chanceux d'y vivre dans le monde d'après. Le monde d'après, c'est comme ça qu'on dit pour le monde à nous, celui d'aujourd'hui. C'est parce que longtemps avant que je naisse, il y a eu une catastrophe, et c'est grâce à la catastrophe qu'on est si bien aujourd'hui. Moi, je connais pas la lecture et tout ça, donc tout c'est qu'est-ce que je vous dis, je l'ai entendu ou je l'ai compris tout seul, parce que j'aime bien ça, moi, réfléchir. Les plus anciens communautaires, ils en parlent un peu parfois de la catastrophe. C'est comme ça que je sais qu'est-ce que c'est. Mais ils en disent jamais trop non plus, et puis ils finissent par s'ennuyer dans leur ruine ou faire une balade dans le dehors. Ça fait que je sais pas trop bien qu'est-ce que c'est la catastrophe. Mais j'ai bien compris que c'est depuis ça que la vie elle est très très belle. Aussi, les communautards d'avant la catastrophe, ça s'appelle pas des communautards,
Ça s'appelle des gens d'avant. Comme le communautaire Jean. Ils s'appelaient tous Jean, je crois. Jean d'avant. C'était pas très pratique, à mon avis, mais c'est comme ça. C'était des sociétés moins évoluées. Et donc, c'est grâce à la catastrophe des gens d'avant qu'on y est si bien dans le monde d'après. Par exemple, prenez les cuisses du poulet. Les cuisses du poulet, c'est qu'est-ce que je préfère dans le manger. Avant la catastrophe, les poulets, ben, ils avaient que deux cuisses. Alors que maintenant, ils en ont au moins cinq ou même plus, mais après, je connais plus bien les chiffres. Vous comprenez ? Grâce à la catastrophe, les poulets, ils en ont plus des cuisses qu'avant. Alors ça en fait plus pour le manger. Et la vie est très très belle. Un autre exemple, avant la catastrophe, les gens d'avant, ils vivaient dans des communautés toutes pointues vers le ciel, comme des arbres, mais en plus grand que les arbres. Les communautés, elles étaient partagées en toutes petites cases qu'on n'y mettrait même pas un poulet du monde d'après parce qu'il en a besoin de se défouler les cuisses, le poulet. J'ai pas tellement compris pourquoi les gens d'avant y vivaient comme ça. Peut-être pour être plus proche de regarder les chouettes radioactifs, ou alors peut-être parce que leur société était moins évoluée. En tout cas, on est plus mieux maintenant dans nos communautés toutes plates sans petites cases. Dans la nôtre de communauté, on a tellement de la place que je peux changer de ruine à toutes les nuits pour le moment du dormir si je veux. Et c'est ce que je fais, moi, parce que j'aime ça, moi, changer de ruine à toutes les nuits. La vie est très très belle. Tous les jours, on y va à la chasse tous les matins. On rigole bien avec les autres communautaires à la chasse. Puis on rentre avant que le soleil il y soit tout en haut du ciel. Après, on se repose au soleil, où on écoute des dix du monde d'avant, où on papote et tout ça. Il paraît que les gens d'avant, ils allaient jamais à la chasse, mais qu'ils travaillaient toute la journée. Travailler, ça veut dire fabriquer des trucs. Les gens d'avant, ils travaillaient des trucs tout le temps, et ils se reposaient presque jamais. Pourtant, ils aimaient pas ça à travailler. Mais ils continuaient à travailler comme même. Ils étaient moins évolués, c'est comme ça. Comme je vous ai dit, je sache pas grand chose dans la vie. C'est ça qui fait que j'y pose tout le temps des tas de questions aux autres communautaires. Et c'est ça qui fait que les autres communautaires les plus vieux, ils m'appellent le communautaire Platon. Même que ça les fait bien rigolir, alors je rigolir aussi, mais en fait moi je la comprends pas la blague et j'y fais semblant. Moi, qu'est-ce que je me pose comme question ? C'est sur les gens d'avant. Pourquoi qu'ils se rendaient si malheureux à travailler des trucs tout le temps ? J'ai beaucoup réfléchi, tellement que j'y ai eu mal à la tête parfois. Je crois que les gens d'avant, ils étaient juste très gentils. En fait, ils savaient qu'ils n'étaient pas très évolués et ils voulaient laisser un monde meilleur à leurs enfants. Et aux enfants de leurs enfants, et aux enfants de leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, et c'est nous. Alors ils ont beaucoup beaucoup travaillé de choses pour faire la catastrophe, et faire que leurs enfants y soient plus évolués qu'eux. Si la vie des communautaires, elle est très très belle, c'est grâce à ça. C'est grâce aux gentils gens d'avant qu'ils ont travaillé plein des objets différents pour qu'on n'ait plus qu'à les ramasser par terre. Ils ont construit plein des ruines pour qu'on puisse changer à toutes les nuits au moment du dormir. Ils ont fait que les poulets, ils en ont plein des cuisses. La vie est très 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 belle, c'est grâce aux gens d'avant. Moi les gens d'avant, je voudrais leur dire merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir travaillé beaucoup de choses pour la catastrophe et nous laisser un monde plus évolué et une vie très très belle. Merci les gens d'avant.
Cette chronique, elle était très 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 bien.
C'est pas facile hein, de parler comme t'as fait là, pendant toute ta chronique là.
Non, je l'avais un petit peu fait sur une chronique qui était Castor Lynch de Nazareth où le mec était un peu bébête. Et c'est vrai que c'était pas facile et tu l'as bien assuré.
Je l'aurais pas pu le faire en live parce que je m'y suis surpris à de nombreuses fois. Et en fait, ce qui est très très dur aussi, c'est de lire. Enfin, ouais, même c'est pas naturel de dire.
Catastrophe.
Quand c'est qu'on se réunit.
Catastrophe, c'était pas mal trouvé.
Catastrophe, ouais. Écoute,
comme même.
Comme même.
Comme même, c'est pas. Les gens l'écrivent quand ils sont bébêtes, mais ils le disent pas à l'oral. Du coup, le dire à l'oral, c'est vachement dire.
Attends, c'est quoi ? Comme même ?
Comme même.
Ouais, comme même.
Pour dire quand même, il y a beaucoup de gens qui disent, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Et voilà, effectivement, c'était très compliqué à lire, j'ai galéré. Même c'était très compliqué à écrire, parce que finalement, écrire mal, c'est pas si simple. Donc,
non.
Tu avais pu l'expérimenter, Vic.
Ouais. C'est clair que c'est pas facile. Non, et tu te demandes s'il faut que tu laisses dans le texte moi je sais que c'est ce que j'avais fait hein, avec des fautes, des accents, des lettres en trop, des lettres en moins, etc.
C'est un juste milieu en fait à trouver quoi. Ouais. Autant tu vois quand j'ai écrit en étant un peu dans la tête d'un gamin pour ma dernière chronique là, chez Schrödinger, là, autant c'est relativement simple parce que les enfants, ils parlent mal, mais ils parlent pas aussi mal que ce que tu viens de faire.
En fait, oui, c'est peut-être aussi plus.
C'est plus naturel en fait. C'est juste qu'ils parlent comme ils pensent. Tu vois, ils cherchent pas.
C'est plus simple. C'est simple en fait. C'est leur manière de parler. Simple plus que il y a des fautes, mais pas.
Alors que là, c'est clairement parler en faute, ce qui est pas simple.
Ouais.
Ce qui est vraiment pas simple à écrire du tout.
Mais
c'est un bel exercice, bravo.
Mais après, c'était assez court, heureusement, effectivement. Parce que je vous avais dit à l'épisode précédent, à la fin de l'épisode, j'avais dit allez, plafond de verre, qu'est-ce qu'on fait ? Essayons de trouver autre chose. Et effectivement, pourquoi pas faire une chronique où il n'y a pas d'histoire ? Parce que finalement, il n'y a pas d'histoire.
Mais il y a pas d'histoire.
Non, mais il y a un monde. Non, mais voilà.
Il n'y a pas d'histoire, mais il y a un monde. Ouais. Et il y a un personnage vachement attachant.
Le communautaire Platon.
Le communautaire Platon. Et il est vachement attachant, ce bonhomme. C'est marrant.
Mais il a l'air heureux. Vous savez qui c'est ? C'est un dum-dum un peu. Hein. Il parle un peu comme un dum-dum. Oui, il a l'air marrant. Et c'est tout l'objet du truc, c'est que finalement, c'est un imbécile heureux, quoi. Et le twist, enfin l'unique twist et l'idée du truc, c'est de dire un monde post-apo et si c'était bien mieux. Parce qu'en vrai, tu n'as plus besoin de travailler, tu n'as plus qu'à ramasser ce qui a été produit avant.
Bah, en tout cas, pour lui, ça lui plaît bien.
Pourquoi
quoi.
Pas quoi. Les quiz de poulet, il y en a beaucoup.
Après, ça sous-entend du coup qu'il y ait énormément moins de gens. Parce que post-apo et avec autant de gens, c'est pas possible. Bah, c'est compliqué quoi.
Lui, il le sait pas, mais simplement, il y a une catastrophe qui a détruit.
Une catastrophe.
Une genre catastrophe. Bah alors, Florian.
J'ai tout arraché, je crois, je suis pas sûr.
Tout arraché.
Ouais, non, effectivement, il faut qu'il y ait une catastrophe qui te tue 90% des gens, et après, le monde est un paradis parce que tu peux toujours récupérer des objets.
On est en train peut-être de la vivre.
Oui, mais c'est les prémices. C'est nous, les gens d'avant. C'est nous.
C'est vrai. Allez. Thomas, remonte-toi un peu, je pense que tu es un petit peu bas. Au niveau
bonjour, allô, oui, effectivement.
Ah, c'est bien mieux.
Là, tout en live. Donc, effectivement, c'est nous les gens d'avant, c'est nous qui foutons la merde, mais pour un monde meilleur, en fait. Parce que cette chronique est de droite aussi. Hein, polluer, allez-y, hein, faites-vous plaisir.
Oui, mais attends, c'est pas vraiment droite. Tout polluer, tout détruire pour avoir un monde meilleur pour les générations suivantes, au final, c'est presque de gauche.
Là, tu viens de me faire un twist.
Ah, c'est un brain fart.
Fart de droite.
Ouais, mais carrément. Parce qu'en soi, on est tous là en train de se dire, tous les gens de gauche et tout, j'ai pas envie de faire d'enfants parce que dans quel monde il va vivre et puis en plus ça pollue, etc.
Pas.
Mais si on pollue encore plus, et ben les enfants, ils ont un monde meilleur.
C'est un brain fart.
C'est quand même assez conservateur de se dire que avec notre monde où on peut tout consommer, où on est au top de la chaîne alimentaire, où on a les meilleures idéologies.
Que même s'il y a une catastrophe, ça ira.
Se dire surtout qu'on serait bien plus heureux si on revenait à la nature sauvage, c'est très très conservateur. C'est très. C'est très soralien, quoi, presque, si je peux dire. On peut dire soralien.
Attention, tu reprends ton costume de professeur.
Autant
plus dire presque soralien.
Enfin, professeur limite.
Bref. Ouais, professeur limite.
Voilà. En tout cas, c'était drôle de faire ça. Je ne sais pas si on pourrait réécrire d'autres choses comme ça, mais de ne pas écrire de l'histoire et de juste d'écrire un monde, bah c'est plus.
Je sais pas une transition, mais c'est pas un peu ce que tu as fait, non ?
De quoi ?
Dans ta chronique, là, c'est pas.
Absolument pas.
C'est pas une histoire, en tout cas.
C'est pas une histoire, mais c'est pas non plus.
C'est pas un monde.
C'est rien.
Et je pense qu'on va le découvrir tout de suite en live cette fois.
Absolument.
Alors, on t'écoute.
Passer le temps de la façon la plus agréable possible.
Bon, je vous ai prévenu, c'est pas une chronique fictionnelle.
On va parler.
Mais si vous voulez, en tout cas, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de problème. C'est une chronique plus, on va dire...
Journalistique.
Journalistique, exactement. Bref, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la vie, pour faire un petit sujet comme ça, simple et sans prétention. Si la vie ne semble pas avoir de sens, les générations successives d'êtres humains qui en ont bénéficié ont pourtant essayé de lui en trouver un, de sens, ou au moins un objectif. Pour certains d'entre eux, philosophes, scientifiques et autres penseurs mus par une curiosité insatiable, l'objectif était la découverte. Passer sa vie à découvrir pourquoi, à découvrir comment. Pour d'autres, les objectifs ont pu être plus spirituels, aspirer à une vie simple, en respectant un certain nombre de valeurs et de principes, se rapprocher de ce qui ressemble le plus au bonheur, se l'accorder ou essayer de l'apporter aux autres, etc. etc. Vous avez l'idée de chercher un objectif à la vie, vous avez peut-être même vous-même déjà essayé. Mais je ne voudrais pas faire une chronique non plus de développement personnel, mais juste noter que tous ces objectifs, ça reste quand même souvent plutôt des points de vue et non des vérités scientifiques intangibles. Au sens strictement biologique, la vie ne semble pas proposer d'objectifs à réaliser, pas d'achievement, pas de grande quête à poursuivre ou de manière de gagner à la fin. Non, à la fin, on revient au début, à savoir au rien, et à moins que l'on vive sans le savoir dans une espèce de grand roguelite où tout recommencerait, pour persister dans la métaphore vidéoludique, à la fin, il n'y a rien. Rien du tout, et rien, c'est bien ce qui caractérise le mieux la vie. Au sens plus psychologique, et selon ce que j'en conclus, entre la naissance et la mort, il n'est question que de réussir à s'occuper du mieux que l'on peut, pendant un temps donné. Pour moi, le sens de la vie est simple et ne dépend que de votre faculté, à savoir passer le temps. Alors je ne dis pas que c'est facile, et pour certains, cela s'avère même assez technique, mais au final, la vie se caractérise par l'objectif de réussir à passer le temps de la manière la plus agréable possible. Cela m'amène aux différentes façons de passer le temps. Pour ça, pour passer le temps, les espèces intelligentes, comme l'être humain, pour celles que je connais le mieux, et sans doute d'autres, peut-on imaginer, ont développé une capacité extraordinaire qui peut prendre différents noms selon les différentes subtilités du concept. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de communauté, au sens de cercle d'appartenance ou de groupe d'appartenance, ou encore d'idéologie partagée. Mais pour ne pas se focaliser sur un mot en particulier, communauté, cercle d'appartenance, etc., qui pourrait biaiser le sens que je voudrais faire passer, je vais utiliser la notion de cellule. Qu'elle soit sociale ou familiale, qu'elle soit choisie ou subie, ces cellules permettent de nous définir à nos propres yeux et aux yeux des autres, et cela tout au long de notre vie. Il faut imaginer ces cellules comme des sortes de taches de couleur, sans contour précis, car elles sont très instables. On peut se trouver au cœur de l'une ou sur le bord de l'autre, on peut y entrer ou en sortir avec une grande facilité. Deux cellules peuvent se repousser pendant des années avant de soudainement fusionner, ou une cellule peut se diviser en sous-cellules. Bref, ce que j'ai appelé comme ça, tu me disais la pipe en introduction, cartographie cellulaire de l'être humain, bref, une sorte de cartographie cellulaire qui est un petit peu précaire et surtout très versatile. Tout ça, c'est pour l'instant bien théorique, mais je vais vous donner un exemple précis pour que vous compreniez bien. Et pour vous donner un exemple précis, je vous présente Althea. Althea est une femme, cellule sexe féminin. Althea est âgée de 20 ans, cellule jeunesse, cellule post-ado. Elle vit avec ses deux parents, Kient et Mardoen, et son petit frère Lopi, cellule famille, cellule aînée de famille. Elle habite à la Nouvelle-Paris avec ses amis d'enfance, cellule France, cellule amicale, cellule urbaine. Elle fait de la danse, cellule sportive, cellule club de sport, cellule musique. Elle vient de commencer des études de droit, cellule étudiante, cellule fête, cellule recherche d'identité, cellule monde juridique. Bref, vous l'avez compris, Althea se caractérise par ses cellules, des cercles d'appartenance donc, parfois immuables, comme son sexe, son âge ou sa famille, et parfois choisies, comme son sport ou ses études. Althea se construit en se choisissant de plus en plus de cellules tout au long de sa vie, en entrant dans de nouvelles ou en quittant d'autres, pardon, comme je disais tout à l'heure, mais aussi parfois en subissant son entrée dans certaines cellules, comme à la mort tragique de ses parents, après laquelle elle doit entrer malgré elle dans la cellule orpheline. Althea se construit à travers des sentiments d'appartenance à certaines cellules, mais aussi à travers le rejet d'autres cellules. En tant que cycliste avéré, par exemple, cellule vélo, Althea s'éloigne des cellules transport motorisé. Cela la pousse à s'intéresser à l'écologie, grande cellule associée, vers laquelle l'autre grande cellule politique se rapproche. En développant sa conscience politique, Althea explore plusieurs sous-cellules jusqu'à créer son propre petit univers de cellules politiques qu'elle affine chaque jour. Tout au long de sa vie, à travers des cellules sociales, identitaires ou de valeur, Althea s'occupe et se construit en appartenance ou en opposition. Petite pause par rapport à ce que j'ai écrit. Vous avez l'idée, c'est l'idée des cercles d'appartenance.
Mmh, oui.
Mais souvent, on s'arrête, le cercle d'appartenance de la famille, du groupe d'amis, des collègues du travail ou des copains de l'école.
Et qui semble immuable. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ta théorie, enfin dans ce que tu racontes.
En fait,
en tout cas, c'est que ça bouge, quoi.
Ça bouge pour les cellules comme ça, mais en fait, la petite différence entre ça et les cellules, enfin les cercles d'appartenance plus classiques du terme, c'est que je me dis que tout. Désolé, du coup, c'est un peu le début de la chronique, mais tout. Le fait qu'elle soit une femme, ça la caractérise aussi, en fait. Celle-là, par exemple, elle est immuable, elle sera tout. Sauf peut-être que demain, elle changera de sexe, et du coup, ça, elle changera de cellule, mais ça la caractérise. Son âge la caractérise aussi. Quand elle est jeune, elle est dans une cellule jeunesse. Donc, c'est pas que son groupe d'amis, c'est aussi le fait qu'elle soit jeune.
C'est une sorte de. Ouais,
un peu plus large.
T'appelles en fait. Sa cellule, ça pourrait être étiquette aussi, du coup.
Ça pourrait être une étiquette, un tag, ouais, exactement. Ouais. J'ai hésité sur le mot, mais bon, j'ai appelé ça cellule qui marche pas, du coup, quand c'est famille, parce que du coup, ça rapproche de cellule familiale, etc. Mais bon, peu importe. Bon, on continue. Je coupe cette musique. Les musiques sont juste d'illustration. Hein.
C'est des musiques de youtubeurs.
C'est Lofi. Lofi.
Chill pop.
Chill pop, tout studio. Alors, on va continuer un peu avec Althea. Quand elle meurt, Altea est à la tête d'un réseau gigantesque qu'il a vu passer à travers des dizaines de milliers de cellules, créant une cartographie de personnalité relativement unique. Vous-même, chers co-animateurs, entrez, quittez, vous déplacez, fusionnez, rassemblez ou rejoignez de nouvelles cellules chaque jour en fonction de vos découvertes, en fonction de vos rencontres. Comme chaque auditeur qui nous écoute d'ailleurs, comme chacun d'entre nous. Mais pour revenir à Altea, je voudrais repréciser une cellule que j'ai peut-être oublié d'évoquer. C'est la cellule dite Romanetti. C'est une petite cellule pour elle. Elle la partage avec, vous me voyez venir, oui. Elle la partage avec peu de personnes, si ce n'est quelques membres de sa famille, et en particulier son oncle, qui a créé Romanetti Galactics, une petite société de transport spatial faisant du fret entre la ceinture d'astéroïdes de Jupiter et la Lune. Altea rejoint la cellule Romanetti, elle s'intéresse finalement au Romanetti, lorsqu'elle commence à faire des recherches sur le nom de l'entreprise de son oncle qui lui semble bien mystérieux, et qu'elle découvre, suite aux explications de celui-ci, qu'elle est l'une de tes descendantes, Thomas.
Ah bon ?
Oui, tout à fait. C'est
ma fille.
C'était le twist. C'est pas ta fille, mais tu vois. Son oncle, enfin, elle découvre que son oncle a nommé sa société ainsi en hommage au podcast de son aïeul, toi.
Ah.
Thomas, je te présente donc officiellement Altea, ton arrière-petite-fille.
Enchanté.
Eh bien, elle de même, j'imagine. En découvrant ton lore, ou devrais-je maintenant dire ta cartographie cellulaire, Altea découvre aussi les archives de ce podcast. Elle découvre donc beaucoup d'informations sur nous. Et par conséquent, en partie aussi, sur le Romanetti, pour lequel elle développe un intérêt tout particulier. Pour revenir au moment où elle meurt, nous sommes en 2674 dans le calendrier grégorien. Et la cellule Romanetti, qu'elle a finalement rejoint par passion, par curiosité d'abord pour son oncle, puis par passion, va peu à peu s'installer et prendre de plus en plus de place dans les cartographies des membres de la famille qu'elle va engendrer. La cellule Romanetti va se développer, va se ramifier presque comme un être organique et va grossir pendant des centaines d'années. Nous sommes à présent en l'an 3021. Soit près de 500 ans après la mort d'Altea. Désolé Thomas, ça a été une rencontre fugace entre toi et ta petite descendante. Ouais. Ses propres descendants, tes lointains descendants donc, ont conquis tout le système solaire, et parfois même un peu plus. Sache, Thomas, que tu es le premier d'une longue lignée d'explorateurs de l'espace, qui brilleront de 1000 découvertes et qui, pour faire écho au début de cette chronique, réussiront à donner du sens à leur riche vie en passant le temps d'une manière tout à fait remarquable. Bref, nous arrivons à la fin de cette chronique et on va un petit peu changer d'ambiance, Thomas. Je te l'avoue. Toute l'ironie de celle-ci est que la conclusion que je m'apprête à formuler et à laquelle Florian va m'aider était en fait mon idée de départ. À la base, je voulais en fait présenter quelques êtres vivants que l'on pourrait rencontrer en 3021 sur Terre. Mon idée était qu'ils seraient constitués de cercles d'appartenance ou de cellules, donc, comme finalement j'ai décidé de les appeler, relativement étonnants et surtout complètement abscons. Je les aurais mêlés les uns avec les autres et je voulais ainsi faire une sorte de grande galerie de personnages peu subtils mais prodigieux peuplant la planète dans 1000 ans. Mais comme vous le constatez et comme les auditeurs le constatent, le temps court et malheureusement cette galerie risque à présent de s'avérer bien mince afin de ne pas tomber dans l'ennui d'une chronique tunnel qui viendrait à bout de l'intérêt de nos auditeurs. Alors, au fur et à mesure de l'écriture de cette chronique, j'ai finalement décidé de recentrer cette galerie de personnages hauts en couleur sur tes descendants, Thomas.
Oui.
J'aimerais donc, après t'avoir présenté Altea, te présenter maintenant quelques-uns des membres qui composeront en cette année 3021 ta famille éloignée, pour qui, et tu vas le constater, la cellule Romanetti n'est plus vraiment la petite cellule sociale et passionnée qu'elle était du temps d'Altea. Il est temps de rencontrer tes descendants.
Ah bah, allons-y, c'est formidable.
Donc Thomas,
quel voyage.
Je te présente
Altus Ben X3, mi-mécanique, mi-organique, descendant lointain d'Altea et encore plus lointain de notre père à tous, Robot Cuisine Connect.
Enchanté.
Évangéliste du fidélisme, je suis et resterai toujours fidèle à mes principes programmatiques. Gloire au pouvoir d'achat, gloire à l'Allemagne, gloire au cooking pilot.
Gloire à l'Allemagne, ça ne doit pas être un descendant de chez moi, ça.
C'est un descendant de Lidl. Thomas, après t'avoir présenté Altus Ben X3, je te présente la très digitale Marjorie.
Mon nom est Marjorie Altea Cassiante. téléchargé dans le réseau neuronal terrien depuis mes 6 ans. Je suis responsable commercial de Romanetti Logistics, la première entreprise de développement personnel dans le cloud. Mon credo ? Branchez-vous et lâchez prise. Croyez en vous, ou plutôt en votre i-vous.
Et voilà, une femme dématérialisée, une de tes descendantes, mais il est déjà l'heure de rencontrer...
Gleb Martin, penseur centuro-terrien. Mon peuple a établi le contact avec la Terre il y a 2 ans. Mon père, Glurbi Glurbo Glurba, a été choisi pour le programme de croisement inter-espèces mixant centurien et terrien. Je suis donc un peu ton descendant et un peu une forme de vie extra-galactique. Une première, quoi. Mon espérance de vie est de 16 secondes et je dois dire que je suis honoré de...
Il est mort.
Excellent.
Et Thomas, après avoir rencontré Glurb, je vais lancer tant pis la musique de conclusion. Je te présente Sultan.
Sultan Shackleton Socrate, de mon nom complet. Je suis un dog allemand, évolué à énergie solaire. Je représente le peuple canin terrien libre. Mon ancêtre s'appelait Webster. Il était le fidèle Yorkshire d'Altea, ta lointaine petite fille. Tout comme mon ami Altus Ben X3, je suis l'idoliste. À la fois fan de Romanetti et de Babal. Je rêve d'une terre remplie de prairies dans laquelle hommes, chiens, IA et extraterrestres vivraient d'amour et de barbecue vegan. Testis croquetus nullus, mon frère.
Chien philosophe, tu ne savais pas que tu avais tous ces descendants, c'est magnifique.
Surtout un chien. Ouais.
C'est magnifique. Enfin Thomas, j'aimerais te présenter ton dernier descendant aujourd'hui. Je peux pas tous te les faire, t'en as des milliers, mais ouais. Le dernier, je le laisse se présenter par lui-même.
Mon nom n'est pas qui je suis. Je ne suis pas quelqu'un. Je suis seulement celui qui n'est pas les autres. Je suis ni homme, ni femme, ni un mélange. Je suis celui que je ne suis pas. Je ne suis pas seulement ton arrière petit descendant. Mais surtout le non-descendant de ceux que tu n'es pas vieillard. Je ne suis pas celui que je suis quand je suis celui que je suis lui qui n'est pas celui que je crois être. Ma seule certitude est de n'en avoir aucune dans ce monde. Ou bien peut-être une seule et unique. Je suis red bourré, putain.
Je sais pas mon descendant, c'est moi hier soir ça.
Le Romanetti, faut y aller mollo. Appelez-moi mollo grand-père. Ça m'aidera peut-être à y aller mollo la prochaine fois.
Merci mon cher descendant de Thomas.
Mollo.
Bref, oui mon cher mollo. Bref, on va s'arrêter là. On aurait pu continuer comme ça pendant des milliers d'années.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Mais on va s'arrêter sur ces 5 de tes quelques millions de descendants. Mon cher Thomas, qui ont, comme tu as pu le constater, développé un intérêt tout particulier pour passer le temps armé d'une bouteille de Romanetti. Preuve en est, pourrait-on penser que finalement, on rigole avec le Romanetti, mais que par la force des choses, à notre petite échelle, développant peu à peu et épisode par épisode cette belle cellule que représente ce bel ersatz de Martinique et le Romanetti, on pourrait penser que par un magnifique effet que d'aucuns appelleraient papillon, viendrait à développer tout un univers de possibilités que cette chronique ne fait qu'à peine effleurer. Alors, gloire à tes anciens descendants et santé.
Santé.
Et là, il y avait la musique
et gloire au Cuisine Connect.
Qu'est-ce qui... Alors, est-ce que je peux changer de gourou? Éventuellement. Je ne sais pas ce qui vient de m'arriver.
Alors, d'abord, c'est dense. Hein.
C'est dense.
C'est très dense.
Je n'ai pas bien compris. Est-ce que finalement, il y a un débat? Parce qu'il y a déjà eu un débat avant, mais on va quand même refaire un débat, parce qu'il y a des choses à dire, je pense. En tout cas, moi, j'ai 2-3 trucs à dire. Donc, en fait, c'était une projection un peu de moi en plus, des racines de mon arbre généalogique. Quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ça a commencé, c'est pas censé forcément finir comme ça. C'est en écrivant par-ci, par-là.
Et le Romanetti aidant peut-être.
Et le Romanetti aidant peut-être. On en est arrivé à finalement parler de tes ancêtres, de tes descendants. Ouais.
C'est formidable. Et une fois de plus, je me tourne vers Florian.
Mais surtout, je lui ai envoyé les textes un petit peu avant. Je m'attendais
il y a 10 minutes.
Ouais, c'est ça, il y a 10 minutes. Je m'attendais à ce qu'on dise, bon, on va refaire cette prise. Non, là, joue un petit peu plus bourré, un petit peu plus IA. Mais il n'y a pas besoin, cher auditeur.
Plus bourré, Florian, pas besoin.
Non, mais ça c'est dans mon, comment dire, c'est dans mon inner core, comme on dit chez les,
ton inner core
chez les start-upers, là. Inner core, dans ton moi intérieur, ta cellule, justement, interne. Tu vois.
Ouais, tu peux nous refaire Margerie
Margerie,
j'ai bien aimé.
C'est pas facile.
C'était un peu la voix du métro.
c'est vrai, mais c'est un peu, c'est un peu Google Home en fait. Quoi.
Il avait pour consigne sur Marjorie, Florian, tu es une femme un peu dépassionnée. Façon voix Google.
Ça, bah, ouais,
il était fort.
C'est tout à fait. Non, c'est impressionnant. Ouais. Et ce que les auditeurs n'ont pas vu, c'est qu'il faisait les gestes en même temps.
C'est important pour se mettre dans le personnage.
Altus Benix, il était vraiment. Il bougeait, il faisait du breakdance en même temps. C'était assez impressionnant. Enfin, vraiment, franchement, il faut vraiment qu'on lance une chaîne YouTube.
Mais ce qui est surtout. Twitch, en tout cas, c'est sûr. Quoi.
Mais ce qui est surtout fou, c'est que les meilleurs comédiens, c'est des années d'entraînement. Ils répètent chez eux, devant leur glace, devant leur femme. Là, Florian, on lui balance le texte. 10 minutes après, il est rentré dans la peau des personnels. Le mec, c'est genre Joker dans Heath Ledger. Le mec. C'est genre acteur studio, pas besoin de s'enfermer dans une pièce tout seul pendant 3 mois pour jouer un rôle. Tout de suite, t'es un robot.
Ça y est, on l'a fait par le confinement, mais ça aide un peu du coup.
Il s'entraînait à être un robot.
Voilà, c'est bien. Et bah écoute, merci beaucoup et Glorbi, Glorbo, Glorbas quoi. J'ai noté ça.
Ça c'est très Rick et Morty esque. Ça, je suis en train de remater Rick et Morty en ce moment.
Ah oui.
From scratch, hein, from épisode 0 quoi. Et Glorbi, Glorba, Glorbo, c'est bien le truc que tu pourrais trouver dans Rick et Morty.
Tout à fait d'accord. Bah, Glorbi, c'est c'est l'entité qui a été choisie pour se reproduire avec un être humain. Un des descendants.
Ouais ouais, mais c'est bien. Je suis plutôt pas mécontent parce que moi je suis vachement ouvert sur. De toute façon, je suis pas de ma idée.
Bah, ça se voit. Hein.
Moi, je petite remarque. Du coup. Est-ce que ça serait pas cette chronique était une rampe parce que c'est étonnant ce qu'on vient de faire là quand même, c'est pas tous les jours. Est-ce que c'était pas une rampe de qui va nous emmener plus loin, je veux dire, maintenant qu'on a cassé, je veux dire le mur
de la chronique
et que maintenant on est capable de faire ça, tout est possible.
J'aime bien l'idée qu'on soit sur une rampe et que Vic soit le Taïg Chris du podcast français, tu vois, qui s'élance depuis la Tour Eiffel
avec ses rollers
directement trop cas, quoi.
Il s'écrase par terre sans
ça, coup, on verra plus tard.
Je pense que t'es pas encore retombé. Je pense que t'es en orbite.
On en reparle.
T'es parti sur la bordure extérieure, je sais pas où. Mais non, mais c'était très bien. Et du coup, tout est possible maintenant. Je vous préviens, épisode 53, le prochain, je réponds de rien, moi. Je vous le dis.
C'est clair.
Est-ce que Florian, tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on remercie Vic pour sa chronique étonnante, originale et...
Non, je pense que tout a été dit, effectivement.
Et bon, on va passer à ta chronique. Est-ce qu'elle sera à la hauteur? Elle va être dark.
Elle va être un peu dark. Elle va être un peu en colère.
Très bien.
Je me prépare. Je vais lancer les musiques. Quand tu vas me faire des gestes, fais-moi des gestes un peu vénères. Normalement, il me pointe de l'index, genre lance la musique. Hein. Mais avec son index, sans la voix.
Allez, il va mettre des coups de poing. Une assiette à chaque fois.
Alors attention, je m'apprête à le faire, tu es mon Thierry Ardisson, je suis tout à toi.
Petite virgule d'abord, et après on va subir la colère de Florian, comme on l'a subi souvent, la nuit, tard.
L'évangile selon Ziggy Spitfire.
Johnny Hollywood se réveille, les cheveux encore pleins de vomi, et d'autres sécrétions humaines, plus ou moins identifiables. À côté de lui, une blonde plantureuse. Encore à côté d'elle, une brune aux traits exotiques. Johnny aime la diversité. Sur la table basse, un rail de Z slalom entre les cadavres de la soirée de la veille. Le réveil sonne et percute chaque recoin de sa boîte crânienne. Il le sait très bien, l'alarme ne s'arrêtera que lorsqu'il posera les deux pieds au sol. Il s'exécute, machinalement, et se lève. Tel un robot, il se dirige vers le premier miroir venu et observe que son enveloppe corporelle n'a pas changé. Et qui plus est, qu'elle est en assez bon état. Ce qui est une bonne nouvelle, car il n'a pas les moyens de s'en payer une autre ce mois-ci. Il commande un café à sa station alimentaire, bien serré, avec un nuage de lait. L'unique orifice de la machine relâche une dose de poudre dans une tasse, puis la bombarde de rayons lumineux. En quelques secondes, le contenu se transforme en un liquide noirâtre, au reflet crémeux et à l'odeur âcre mais délicieuse. Dans la foulée, l'écran de l'électroménager indique le solde bancaire de Johnny, débité de 10 crédits. Après en avoir bu une gorgée, il attrape les deux femmes, l'une par le bras, l'autre par les cheveux, et les met à la porte, sans ménagement. Enfin seul, se dit-il. Il boit une nouvelle gorgée, lorsqu'une clameur monte dans la rue. Blasé, il se dirige vers l'unique fenêtre de sa chambre et désactive le filtre opacifiant en posant sa main dessus. Juste en bas de chez lui, une foule de quelques dizaines de ferrailleurs s'égosille en criant son nom. Lorsque Johnny daigne baisser les yeux vers l'assemblée, il se met à crier. Non pas de colère, mais plutôt de joie. Cet amas de mendiants est venu louer Johnny Hollywood, leur sauveur.
En l'an de grâce 3021, l'administrateur décide de recenser tous les habitants de la métropole dans leur quartier d'origine. Joseph et Hanako, enceintes du premier fils, quittent la ville pour rejoindre la colline d'Hollywood où ils sont nés. Une fois arrivés, Hanako n'eut d'autre choix que de mettre au monde son fils dans une modeste demeure désaffectée, car il n'y avait pas de place pour eux ailleurs. Elle l'habille et le couche dans une baignoire. Dans les environs, des ferrailleurs fouillent les restes d'une décharge sauvage à la recherche d'électronique à vendre. L'ange du Seigneur Tout-Puissant s'approche d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppe de sa lumière. Ils sont saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tous les hommes. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né couché dans une baignoire, non loin, dans une demeure désaffectée. » Et soudain, une armée céleste se joint à l'ange pour louer le Seigneur. Lorsque les anges s'éloignent d'eux, vers le ciel, les ferrailleurs se disent les uns les autres « Allons donc à Hollywood et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendent et trouvent Joseph, Hanako et le nouveau-né couchés dans la baignoire, car ils ont froid. Quand 8 jours sont accomplis, l'enfant est circoncis et le nom de Johnny lui est donné, car c'est celui que l'ange avait indiqué avant sa conception. Ziggy Spitfire, chapitre 2, versets 1 à 20.
Johnny Hollywood n'est pas un ferrailleur comme les autres. À vrai dire, ce n'est même pas vraiment un ferrailleur. Holly, pour les intimes, est un génie. Une tête. Un ancien ingénieur de la firme. Il conçoit et produit certainement les meilleurs implants cybernétiques de la région. Le Vision Eye, c'est lui. Hammerfist, encore lui. Mais il est surtout connu pour son best-seller, le Marteau Dicker. En bref, il ne bosse que pour la crème de la crème. Du moins, bosser pour la crème de la crème. Une vaste opération criminelle reliant les différents chefs-haillons des strates pourries de la ville de New Angel City passait par ce pauvre Johnny, qui n'était qu'un pion sur l'échiquier de la loose. Un simple fusible, qu'on fait sauter quand les corrompus qui font la loi se rincent un peu trop sur le dos des pauvres gens. Du jour au lendemain, Johnny est passé de génial et richissime ingénieur à fugitif, recherché par toutes les milices armées. Autant dire qu'il se serait bien passé de cette bande de fanatiques, qu'il l'adule comme s'il était le Messie. Ça attire un peu trop l'attention à son goût. Tout ça parce qu'il a eu le malheur de rendre 2-3 services au pecno du coin contre un bout de viande ou un endroit pour dormir. N'importe quel débile avec 3 neurones bien connectés pourrait se faire passer pour un demi-dieu parmi ces raclures qui ne savent rien faire d'autre que de sniffer les gaz d'hélium liquide de la surface. Alors un ingénieur de renommée mondiale qui redonne la vue à un pauvre vieillard, ça tient du miracle par ici. Même s'il ne s'agit que d'une réparation toute bête, d'un plan cybernétique oculaire. Le genre de choses qu'un mécano ferait en une demi-heure, si seulement il y en avait dans le coin.
À New Angel City, près de la porte des damnés, il y a une fontaine qui s'appelle Bethesda. Autour de cette fontaine, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Là se trouvait un vieillard, aveugle depuis 38 longues années. Johnny le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le vieillard aveugle lui répondit « Johnny, je n'ai pas assez d'argent pour remplacer ces vieux implants, et quand j'en ai suffisamment, je l'envoie à ma fille qui en a besoin pour survivre. » Hollywood posa la main sur son visage et lui dit « Ouvre les yeux, vieillard, et vois autour de toi. » Aussitôt, le vieil homme ouvrit ses yeux d'un bleu profond et regarda Johnny comme personne ne l'avait jamais regardé. Il était guéri. Ziggy Spitfire, chapitre 5, versets 12 à 22.
Un flingue sur la tempe, une barre à mine pointée sur sa gueule, Johnny est en mauvaise posture, comme tous les soirs. Manfred a eu vent de la prime qui avait été mise sur sa tête. Et comme il connaissait sa réputation, il n'est pas venu seul. À vue de nez, une dizaine d'hommes de main, tous payés à la tâche. Des mercenaires qui sont autant attirés par une puce remplie de crédits non signés que par la vision du sang qui coule. Ce traître de Manfred rigole à gorge déployée. Ce qui a pour effet de faire danser la graisse de son double menton sur les rythmes de la musique électronique du club clandestin. Les flashs stroboscopiques hachent la scène en des milliers d'instants discontinus. L'action semble ralentir à mesure que les flashs s'accélèrent. Hollywood profite d'un intervalle entre deux clignotements frénétiques pour attraper le flingue qui embrasse le sommet de son crâne. Méthodiquement, il enchaîne ensuite les tirs en pleine tête. Et de 1. Et de 2. Il a bien calculé son coup. Ce genre de flingue à pulsation électromagnétique à un magasin de 12 décharges. Juste ce qu'il faut pour nettoyer ce taudis. Et de 7. Et de 8. Il saute sur une table, rebondit sur un mur pour échapper à l'un des mercenaires, avant de lui décocher une décharge en plein dans la gueule. Et de 11. Plus qu'une munition. Celle-là est pour cet enfoiré de Manfred. Il se dirige en marchant tranquillement vers l'homme au costard, qui se cache désormais derrière une table, au milieu d'une mare de sang et de liquide de refroidissement. Il pointe le flingue sur son front plein de sueur et appuie sur la gâchette. Et merde, Johnny a mal compté. Ce sera pour plus tard. Il entend déjà les sirènes des miliciens. Hollywood n'a plus le choix. S'il veut sortir d'ici vivant, il va devoir faire vite et être créatif. Il prend son élan et saute à travers la baie vitrée. Les 18 étages de l'immeuble défilent à grande vitesse devant ses yeux. Selon ses calculs, il a une chance sur 5 d'atterrir dans le canal d'eau usée qui passe en bas du building. Malheureusement pour lui, il n'a jamais été très doué en statistiques. Il atterrit sur le trottoir, à 50 cm de sa cible. Il se vide de son sang et meurt. Le lendemain matin, Johnny Hollywood se réveille dans son lit, avec une terrible migraine et une nouvelle enveloppe corporelle.
Le dimanche, elles se rendirent à la morgue de grand matin en apportant un bouquet de fleurs pour lui rendre hommage. En arrivant sur place, elles découvrirent que le cadavre de Johnny n'était plus là. Il avait lui-même signé le formulaire de départ. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici qu'un homme leur apparut, habillé d'un costume funéraire resplendissant. Saisies de frayeur, elles tenaient leur visage baissé vers le sol. L'homme leur dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » À leur retour de la morgue, elles annoncèrent tout cela aux autres ferrailleurs. Mais ces derniers prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas les femmes. Cependant, l'un d'entre eux se leva et courut à la cellule résidentielle de Johnny. Il frappa à la porte et elle s'ouvrit. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Ziggy Spitfire, chapitre 24, versets 1 à 12.
Hollywood court à s'en perforer la poitrine. Il enchaîne les ruelles et les raccourcis. Il connaît très bien le chemin, il l'a emprunté des centaines de fois. Cependant, il n'avait jamais eu à le faire pour chasser par des centaines de miliciens armés jusqu'aux dents. Il faut dire qu'il l'a bien cherché. Personne n'avait encore à ce jour attaqué le centre de sauvegarde de Cloud District. La dernière mort de Johnny a été pour lui une véritable révélation. Il a toujours désiré faire partie des puissants, de ceux qui se nourrissent d'argent, de stupre et d'influence. Regardez le monde depuis la terrasse d'un gratte-ciel, 200 étages au-dessus des pauvres et des mendiants. Non pas qu'il les méprise, mais parce qu'il le mérite, plus que tous les autres, parce qu'il a tout donné pour y arriver. Il a sacrifié sa vie, ses proches et son humanité. Pourtant, ce monde dont il a toujours rêvé, l'a chassé comme un vieux chien errant dont on ne veut plus remplir la gamelle de peur de choper la gale. Il n'a jamais vraiment appartenu à cet univers. Tout ceci n'était qu'une illusion pour le rendre docile et servile. C'est terminé maintenant. Il a rétabli l'équilibre, en leur enlevant ce qu'ils avaient de plus cher à leurs yeux. Il a fait sauter le plus important centre de sauvegarde mémorielle de la ville. En une seule explosion bien placée, ce sont des dizaines de milliers de serveurs qui sont partis en fumée. Et avec eux, les backups des consciences des plus riches de New Angel City. De ceux qui peuvent se payer un service de sauvegarde à distance 5 étoiles, afin de se transférer dans une nouvelle enveloppe en cas de « défaillance corporelle », comme disent les brochures. Les dieux n'existent plus, bien fait pour leur gueule. Même si cela veut dire que Johnny redevient mortel par la même occasion. Il n'est plus qu'à quelques mètres des tunnels d'évacuation et de la liberté quand il tombe nez à nez avec une patrouille de miliciens. Un silence de mort règne sur la place pendant de longues secondes durant lesquelles les différents protagonistes se toisent et évaluent les différentes possibilités d'action. C'est Johnny qui brise le premier l'immobilisme de la scène. Il ferme les yeux et ouvre grand les bras. Un geste d'abandon pour certains, d'amour pour d'autres. Nul ne sait ce qui peut bien se passer dans la tête d'Hollywood en cet instant précis, alors qu'une myriade de projectiles électromagnétiques transperce son corps de part en part.
Le sauveur n'était pas encore mort. Pour instruire la leçon au peuple de New Angel City, on le fit marcher jusqu'à la porte principale de la ville. Arrivé à un endroit appelé Golgotha, les miliciens le crucifièrent. Puis ils se partagèrent ses possessions en tirant au sort. Ensuite, ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Johnny Hollywood, terroriste ». Avec lui, furent crucifiés deux autres criminels, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête. Les criminels crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. Quand arrivait midi, l'obscurité se fit sur toute la ville. Johnny criait de souffrance. Les quelques disciples qui étaient là disaient « Il rejoint les anges ». L'un d'eux brava la garde et courut lui donner à boire. Mais il était déjà trop tard. Hollywood, dans un dernier effort, poussa un grand cri et expira son dernier souffle. Au même moment, la terre trembla. Ziggy Spitfire, chapitre 38, versets 17-21.
C'est la fin.
Alors, moi j'ai deux trucs. Le premier truc, c'est que tu t'es finalement mis à jouer à Cyberpunk.
Ouais, c'est ça, mais dans mon esprit,
c'est
seulement.
Ça, dans ton esprit, oui, j'ai créé un jeu.
J'allais dire, je préfère ce Cyberpunk là que celui que j'ai vu que je suis allé rendre à la Fnac. Là.
Il est pas bugué, il est pas trop bugué en tout cas.
C'est cool. C'est effectivement ouais, Cyberpunk.
Comment il s'appelle Johnny?
Johnny Hollywood, il s'appelle, c'est son petit nom.
Non, mais comment il s'appelle le Johnny de... Parce qu'il y a pas un Johnny dans Cyberpunk.
Il s'appelle V, non, tout simplement, je crois. Hein.
Non, mais le gars qui est joué par... qui n'y arrive, t'as pas joué assez.
Ah non, mais j'ai pas joué assez.
Il s'appelle Johnny quelque chose, je crois, justement. Ouais,
non, il s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle.
Mais je pensais que c'était une référence à ça, en fait.
Style, je sais pas quoi. Non, pas du tout. J'ai même pas regardé le nom de Johnny Hollywood. C'est pas référencé de Cyberpunk. J'ai cherché un nom qui fasse un peu Jésus, en fait. Je suis passé par Joseph. Et au final, je suis tombé sur Johnny.
J-H.
C'est ça. Et du coup, Hollywood, parce que je trouvais ça cool, quoi. Ouais. Un petit peu comme Ziggy Spitfire. J'avais Manfred. Manfred, il s'appelle Manfred Bentley. Voilà. C'était chiant de dire Manfred Bentley. Donc, ouais. Du coup, j'ai juste mis Manfred dans le texte, mais dans l'univers, il s'appelle Manfred Bentley.
Sachez que là où ils vivent.
C'est ça.
Ouais. Il s'appelle Johnny Silverhand, juste pour info.
Ah, Johnny Silverhand.
Donc, comme quoi, tu vois.
C'est fou, hein.
Mais Johnny, c'est
comme quoi ça va peut-être marquer sans même.
Ouais, ou juste Johnny, tu vois, l'univers cyberpunk, ça sonne aussi bien ce genre de nom.
Mais en tout cas, j'y étais.
C'est vrai?
Ouais.
Tu t'es cru dans Cyberpunk sans être dans Cyberpunk?
Surtout que j'y ai jamais joué, mais en plus, en ce moment, je regarde The Expanse. Et dans The Expanse, c'est pas cyberpunk, mais t'as quand même dans certaines de tes références, quand tu mets tes petites scènes de bataille et tout, quand ils se tasent, quand ils sont tous en train de se taser là, il y a un petit peu de ça aussi quand même.
C'est
post-cyberpunk,
quoi.
C'est, ouais.
Effectivement, et donc il y a des vrais morceaux de Bible dedans.
Oui.
Parce que serait Aline et les garçons sans la Bible?
Ah bah bien sûr, mais oui, alors je vous ai dit en backstage et tout, je pense que j'ai trouvé une méthode pour écrire le moins possible.
C'est le copier-coller.
50% de la chronique, c'est la Bible, mais retravailler un petit peu du coup au goût cyberpunk, quoi, on va dire.
Et ce qui est drôle, et c'était ma deuxième remarque après cyberpunk, c'est que tu partages une caractéristique avec ceux qui ont écrit la Bible. Et ça,
c'est vrai.
C'est fort. Mais c'est ton problème sur la concordance des temps. Parce que c'est blindé de
exactement.
Ils ont des problèmes avec les temps.
Ouais,
dans
c'est
la
ce que j'allais dire. Putain, franchement, on vit dans une culture judéo-chrétienne, c'est pour ça qu'on a des problèmes de concordance des temps, c'est bien de la Bible.
Mais en même temps, est-ce que c'est à mettre sur le dos des personnes qui l'ont écrit, ou de ceux qui l'ont traduit, ou de ceux qui l'ont ensuite posté sur un site bible.fr/net? Franchement, c'est difficile. Il y a des sources dans tous les sens.
Bible.org.
Et franchement, laisse tomber. Pour le même texte, il y a 10 000 versions différentes. Et je parle même pas de Luc, Mathieu et consorts. Non, non. Même pour
je
juste
@Matt36.
Oui, c'est réécrit chacun de différentes manières et tout. Alors pourtant, c'est bien foutu. Tu vois, les mecs, ils se sont dit, je sais plus en quel siècle, ils se sont dit, on va organiser tout ça, on va mettre ça en chapitre et verset. Comme ça, ce sera pour faire référence, pareil
oui,
pour tout le monde.
Facile, ouais,
tu parles mon cul quand tu vas sur Internet. Maintenant, c'est le bordel, quoi.
Ouais,
donc
ouais.
Là, pour trouver des références pour justement. Recopier, retravailler un petit peu goût cyberpunk, c'est pas simple.
Puis même les traductions sont différentes de base. En fait, même en français, il n'y a pas une Bible. Il y a peut-être une un peu plus référence. Mais tu vois, à un moment donné, tu parlais de signe. Le signe, c'est un miracle, en fait. Ça dépend comment tu le traduis. Donc, effectivement.
C'est aussi
pas.
Un film de Night Shyamalan.
C'est aussi un oiseau à plumes, quoi.
Il faut le dire. Oui,
c'est vrai.
Effectivement, ouais,
non, mais donc, faut, à un moment donné, faut arrêter avec ça.
Qu'est-ce que je voulais dire pour aller plus loin, non, parce que je ne sais pas ce qu'on se dit. De toute façon, cet épisode est bâtard. L'épisode bâtard. Kenneth Goldsmith, écrivain poète post-internet, qui a un article sur lui d'Ouzbek Erika il y a un moment, peut-être 3-4 ans, que j'ai retrouvé là, pas du tout dans ma mémoire, mais grâce à internet, où il explique qu'on vit dans le monde d'internet et on ne devrait pas avoir de problème avec le copier-coller. Et genre le copier-coller, c'est juste ouais, on copie-colle, on transforme, machin et tout. Et en vrai, c'est extrêmement postmoderne et ça se fait vachement dans plein de bouquins déjà.
Bien sûr. Et puis en plus, la Bible, c'est libre de droit, non?
Je pense.
C'est plus de 60 ans, non?
Je pense que c'est ok. Même les droits d'adaptation, c'est bon. Je pense que c'est ok.
Après, faut, je sais pas si t'as vu avec les Descendants, mais normalement, faut voir avec les Descendants. Il me semble.
C'est vrai. C'est un sujet. On sait même pas qui a écrit la Bible en vrai. Enfin, les Évangiles, si, mais les Évangiles, oui, donc le Nouveau Testament. Mais et encore qu'on n'est pas sûr. Mais la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament compris. Qui a écrit l'Ancien Testament, on ne sait pas.
Ouais, c'est la pompe ultime, tout le monde se plagie de bout en bout.
C'est la pompe ultime. Tu vas aller à l'église me non, brûler un cierge dès ce soir parce que
mais sinon, franchement, de toute façon, tu vas aller en enfer, c'est trop tard.
Ouais. De toute façon, lui, il est grillé pour l'enfer, si je puis dire.
Mais oui, non, l'an 3021, je suis parti. Le starter de cette chronique, c'est en l'an de grâce 3021. Voilà, quand j'ai vu le thème, et du coup, je me suis dit, j'ai pensé à l'an de grâce 2021. Et je me suis dit, allez, qu'est-ce que ça donne?
Un Jésus cyberpunk, qu'est-ce qui se passe?
C'est ça. Et pour moi, du coup, il n'est même pas conscient d'être Jésus. Il s'en bat les couilles. Mais au contraire, c'est même un frein pour lui. Mais
d'ailleurs, il n'est pas vraiment Jésus.
Bah, non, il n'est pas vraiment Jésus, mais il est quand même un peu le sauveur de l'humanité, dans le sens où à la fin, il va remettre un petit peu d'équerre à tout le monde pour que tout le monde soit mortel.
En fait, à ce compte-là, ça peut être une sorte de messie. Enfin, pas un messie, mais en tout cas, c'est un héros et pas un messie parce qu'il n'est pas touché par quelque chose de divin. Mais simplement, effectivement, il est.
Est-ce que Jésus n'est pas au final juste un super-héros?
Et les autres.
Je pose la question.
Alors, deux cierges.
Pavé dans la mare.
Deux cierges.
Et les
pavés dans le bénitier.
Pavé dans le bénitier. Les autres meurtriers qui se font crucifier à ses côtés, tu dis à la fin, il lui parle, non?
Il insulte aussi.
On lui parle mal,
c'est pas cool.
Mais moi, j'avais pas ce souvenir-là de mes cours de catéchisme. Mais non, à la Pelloye des Vignes, à Champigny même, pour tout vous dire. L'abbé Bernard.
Le nom du pédophile de base. Quoi.
Franchement, non, il était très sympathique. Il est mort. Respectez un peu ce monsieur, s'il vous plaît.
Mais en plus, moi, je le voyais plus façon. Tu vois, prêtre sympa.
Ouais, mais trop sympa.
Non, plutôt prêtre un peu alcoolique, avec le nez rouge et la grande toche.
C'était un peu ça. C'était, tu le dessines bien, effectivement.
Très bien. Mais je trouve
un beau tableau, un beau portrait.
Bah alors, qu'est-ce qu'il disait l'abbé Bernard?
Je me souvenais pas surtout de cette fin, moi, de la vie de Jésus. Tout le monde lui crache dessus et tout, en mode genre, si t'es si fort, t'as qu'à descendre toi-même de ta croix. Mais genre vraiment comme ça, quoi. J'ai enlevé un peu tout ce passage-là dans ma chronique.
Alors, fais bien le malin. Alors, les miracles, ils sont où?
Et au final, quand il est sur la croix, etc., il y a que Marie-Madeleine, sa mère et je sais pas qui là, et qui se disent, oh mon Dieu, c'est un peu triste quand même que Jésus il soit en train de mourir, mais c'est tout. Et genre, il crève, et puis voilà quoi.
Ouais. Bon, on va goûter.
C'est quasiment ça quoi. Et t'as Pilate qui fait, ouais, bon, bah de toute façon, il est déjà mort. Et parce qu'il pensait qu'il allait crever dans 2-3 semaines. Normalement, tu te dessèches et après tu meurs, tu vois. Mais il fait, ah tiens, il est déjà mort. Bon, bah on va le décrocher, tant pis. C'est tout, c'est un non-événement pour eux quoi. C'est la mort de Jésus, c'est quand même.
Non, mais il savait pas.
Non, mais il savait pas.
Il savait pas à l'époque qui était Jésus. Enfin, c'est quel joueur de foot incroyable. Très bien. Référence à ceux qui connaissent le football, sinon vous êtes baisés. Si vous connaissez que la Bible, vous êtes vraiment.
C'est la Bible allemande.
La Bible. Excellent. Est-ce que quelqu'un veut ajouter autour de cette table quelque chose à propos de la chronique formidable de Florian, à propos d'autres choses, à propos de la vie, ou alors on va passer aux recommandations et on va se recommander des choses?
Je crois que nous pouvons nous recommander des choses.
Le masque, la pipe. Le masque et la pipe. Avec un peu de sourire sur la fin.
Oui, c'est ça.
Tu peux faire un
peu d'étoile.
La pipe, le masque et la pipe.
Encore un peu.
Le masque, la pipe. Le masque et la pipe.
Est-ce qu'on peut sentir un peu une sorte de professionnalisme derrière, digne des laboratoires?
Le masque, la pipe.
Oui, c'est ça.
Le masque et la pipe.
Tu peux la faire.
Oui, mais alors ça, avec le sourire d'avant.
Le masque. La pipe.
C'est pas, il
le
fait,
masque et la pipe.
Ce cochon, il y arrive.
C'est un acteur.
Quel cochon celui-ci.
Il a changé de taf.
Mais surtout, tu vas arrêter d'écrire des chroniques, tu vas jouer nos chroniques. On va faire ça. Ça va être beaucoup plus sympa. Le masque et la pipe.
C'est nous.
C'est la rubrique culture d'Alain et les garçons dans laquelle on sent qu'on commence à être fatigué.
Ouais, accrochez-vous, vous allez prendre votre dose de culture dans la gueule.
Le lendemain de suite est vraiment très persistant pour moi là maintenant. Donc
on baille tous pendant les virgules.
On va vous cultiver très fort et après on va tous aller se pioter. Je vais commencer, c'est ça qu'on s'était dit. Donc, comme ça, moi ça va être très très rapide parce que.
Très bien. Je vous recommande Alien 2.
Non,
merci.
Non, moins une pirouette que ça. Non, pour vraiment, je recommande un truc assez. connu et en tout cas très pas besoin d'être recommandé, mais je vais quand même le recommander parce qu'il y a une subtilité.
Quelle introduction.
Magic l'Assemblée, le jeu de cartes, le jeu de cartes formidable. Moi, la première fois que j'ai joué, je devais avoir 9 ans, ça devait être en 96. Et j'ai, en fait, après, j'ai arrêté de jouer. Mais en gros, ça m'a suivi toute ma vie. Et j'ai rejoué par différentes périodes, etc. Là, je m'y suis remis récemment. Et c'est pour ça que je vous le recommande. Parce que ça vient de sortir sur Android. Et Magic sur Android.
Mais tu joues contre des gens.
Tu joues contre des gens, bien sûr. Et c'est trop bien. Et c'est incroyable. Donc Magic, jeu de cartes à collectionner où tu construis ton propre deck pour aller péter la gueule. En gros, c'est Hearthstone avant Hearthstone. Et c'est trop bien, le système est formidable, les nouvelles éditions sont trop cool, moi je connaissais pas du coup.
Mais du coup, ça perd pas un peu avec le fait que ce soit digital justement.
Bah alors, t'as pas les cartes, mais t'as quand même des belles illustrations.
Non,
et
mais
tout.
Tu dis toi-même qu'il y a une grande partie de Magic, le plaisir est dans la collection.
Bah, tu collectionnes quand même des cartes digitales là.
Ouais, tu
connais ah, ouais, okay, okay. Parce qu'en fait, t'as pas du tout toutes les cartes au choix, c'est que
ouais, tu choisis ton deck.
T'as déjà joué à Hearthstone?
J'ai tenté et ouais. Pas accroché. J'ai pas persisté.
T'as joué à Magic?
Au-delà ouais. Du gameplay, etc. Et tout, franchement, dans Hearthstone, il y a un vrai moment qui est super cool, c'est quand tu unpack ouais. Et que tu vois les cartes apparaître et tout. Franchement, ouais, c'est super kiffant.
Bah, Magic, c'est pareil.
Mais du coup, Magic, pareil. Et c'est trop cool, quoi.
Effectivement, l'ouverture de booster aussi est très, très, très jouissif. Et ce qui est très bien, donc voilà, tu me faisais une transition, Vic. Pour aller vite parce qu'on va pas en parler
pendant 15 secondes.
Ce qui est une transviction, ouais, tout à fait, c'est beau ça.
Une catastrophe.
Une catastrophe. C'est que t'as pas besoin de dépenser vraiment. Moi j'ai déjà dépensé 5 balles dedans, mais en vérité,
ça
en
va,
vérité, non mais en vérité t'as même pas besoin.
Quotidien. C'est
un jeu, il est 1000 fois plus généreux que Hearthstone. Il est vraiment, t'as plein de moyens d'acquérir des cartes et tout. T'as pas besoin d'avoir un deck de malade pour commencer à scorer. Comment dire, tu peux faire des decks budget très facilement qui permettent de monter assez haut.
Et il y a beaucoup de gens dessus, tu trouves facilement.
Bah tout le temps. En fait, c'est la question se pose pas. Il y a plein de gens. Et pour tous les modes de jeu, même le draft, il y a pas que du construit. Tu peux jouer aussi en limité. Il y a plein de choses. Et tout ça est formidable. Je recommande. C'est vraiment super. Moi, je passe un très bon moment sur ce jeu-là.
Moi, j'en ai gros sur la patate par contre avec ce jeu.
Oui.
C'est qu'effectivement, il est disponible sur Android.
Oui.
Peut-être même aussi sur iPhone, mais je suis même pas sûr.
Je sais pas.
Mais surtout, il est pas disponible sur tous les Android. Moi, j'ai pourtant un téléphone de haute volée qui est récent et tout, certes de la marque Oppo.
Et que tu as customisé d'une manière avec tout à fait tonique.
Il est déjà moche parce qu'il est bleu, qui tire sur le bleu clair et tout. Et j'ai dégoté un pop socket qu'on m'a offert, que j'ai pas choisi et qui est moche.
Pop socket. T'es tellement un Gen Z, toi.
Une marque. La marque Pop Socket, enfin bref, vous savez, le truc qui permet de le tenir dans la main et tout.
Le truc de Gen Z, quoi.
Exactement. Bref, je peux pas télécharger Magic l'Assemblée, The Trading Card Game Application.
Ouais, mais t'as un Pop Pocket déjà, quoi.
Un Pop Pocket. J'ai un Pop Socket, certes.
Ouais, pardon, excuse-moi. Non, tu peux pas, mais en fait, moi j'ai vu la pub passer sur Reddit, justement. Il te dit c'est sur certains devices, effectivement. Moi j'ai du bol, le mien ça marche. En même temps, moi j'ai pas de surcouche.
Après, je crois que c'est une. Je crois que c'est alors, c'est pas une pré-alpha, mais en tout cas, c'est aussi.
Non, parce que en fait, le jeu, moi j'avais déjà joué il y a longtemps Magic Arena. Ça s'appelle Magic Arena, pour info, faut peut-être que je le dise. La Magic Online, enfin la version online un peu cool. Et moi j'avais déjà joué sur desktop depuis il y a genre 2 ans. En fait, j'étais inscrit à la bêta, même pour tout vous dire, j'étais un peu à fond. À l'alpha, même, je crois, je sais plus. Et là, il vient de sortir seulement maintenant sur Android, mais c'est effectivement une bêta. Moi, ça marche bien, mais je pense que ça marche. Il y a plein d'Android qui fonctionnent pas encore ou mal.
Bah, c'est même pas. Je peux même pas.
Ouais, voilà. Donc.
mais bon, il te dit non. Tu le vois, mais tu dis clic dessus, tu fais non.
Exactement.
C'est mort, quoi. C'est mort.
C'est mort.
T'as un Oppo. Et non, mais bientôt tu pourras, Florian. Bientôt tout le monde pourra. Et en attendant, il y a beaucoup de gens qui peuvent déjà, et je vous le recommande. C'est la fin de ma recommandation. À toi, Vic.
Attendez. Alors, moi, qu'est-ce que je vais recommander? J'avais oublié qu'il fallait recommander quelque chose, donc je ne vais pas recommander quelque chose, je vais recommander quelqu'un.
Recommander quelqu'un,
c'est-à-dire?
Non, je vais recommander le gérant de la librairie Univers BD. Pour les Parisiens, alors désolé pour les autres, et désolé parce que de toute façon cet épisode va sortir pendant le couvre-feu, donc vous pourrez pas y aller.
C'est
essentiel
désormais.
Tout à fait. Alors c'est considéré comme une librairie si c'est que de la BD?
Oui, je pense.
Ouais. Parce que c'est
une. Il y a des disquaires aussi, donc ça devrait passer.
Ouais. Ouais, mais bon, c'est pas pour le coup, c'est pas un disque, la BD.
Non, mais bon, s'il y a les livres. Et les disques, tu te dis que la BD, ça passe, tu vois?
Ouais, il y a des chances. Eh bien écoutez, si ça passe, et si vous êtes parisien, et si vous aimez la BD. Eh bien, rendez-vous
dis-nous pourquoi.
Univers BD, au 29 rue du Château d'Eau. Fin de la recommandation.
Dis-nous la vérité, t'as été payé combien?
Parce qu'il c'est ce que j'allais dire, la vérité c'est ça, c'est que j'ai été payé. Non, la vérité c'est que je suis passé devant l'autre jour par hasard. Je suis rentré dans cette boutique sans, enfin, avec l'intention comme ça de jeter un œil et de m'acheter une petite BD. Et je suis et j'ai parlé en fait 2 heures avec le patron d'Univers BD, donc rue du Château d'Eau à Paris. Et c'est quelqu'un d'extraordinairement intéressant. Et je vous invite.
T'es reparti avec.
Je suis reparti avec
kilos de BD.
Voilà, bah, c'est aussi quelqu'un de très commercial. Hein. Non, mais enfin vraiment, il était super intéressant. Donc je suis reparti avec des BD très cool. Qui feront peut-être l'objet de futures recommandations, ouais, quelques noms qui sont des classiques, mais je m'en suis les deux que je suis en train de lire en ce moment. Enfin, je viens de finir Rusty Brown de Chris Wyer, donc de l'école de Chicago, pour les fans de BD que je vous conseille fortement. Dernier album de Chris Wyer, donc sorti l'année dernière chez Delcourt, superbe album. C'est 350 pages de métaphysique où il se passe rien et c'est génial. Et deuxième petit nom, celle que je suis en train de lire en ce moment, s'appelle « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » d'Emile Ferris, dont vous avez entendu parler, parce qu'on a un petit peu parlé en backstage avant. Allez voir, tapez « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » sur Google, vous allez voir, prendre votre petite claque, ça coûte 34 €, ça, c'est chez Toussaint Louverture, et c'est super BD, super roman graphique, enfin vraiment quelque chose
qui a gagné plein de prix.
Qui a gagné plein de prix, qui a gagné Angoulême et plein de prix à travers le monde.
Ils ont gagné la ville d'Angoulême.
Ah, c'est ça exactement. C'est quand même quelque chose. C'est
une jolie ville, hein. Bravo.
Je n'y ai jamais mis les pieds, mais j'aimerais bien aller au Festival d'Angoulême.
J'ai fait y aller en plus, j'avais un pote qui vivait là-bas pendant un an, il est parti, j'ai raté.
Bon, bref, il paraît que c'est super.
Ma vie.
Mais c'est cool de gagner Angoulême en gros.
Ouais, c'est plutôt respecté même internationalement. En tout cas, Univers BD, très sympa, allez-y, vous allez parler avec ce monsieur. Gens, c'est un journaliste BD qui était d'ailleurs au passage aussi juré au Festival d'Angoulême. C'est que 7 jurés par an, hein. c'est un petit.
Ah oui,
c'est un petit jury. Ouais, et donc lui, il est journaliste BD et propriétaire donc, de la boutique Univers BD. Et il est super intéressant. Et surtout, il est très optimiste. Et il dit que c'est la meilleure époque si vous aimez la BD. Et c'est quelqu'un, il dit qu'en gros, les acheteurs sont devenus des connaisseurs, en fait, que l'époque, parce qu'il a éduqués, un certain âge, il dit dans les années 80, les gens venaient, ils faisaient, moi je veux le prochain Delcourt, par exemple. Et ils étaient atteints de collectionnistes, mais il leur disait, mais cet album, c'est de la merde, faut pas l'acheter. Ouais. Non, mais je m'en fous, je veux, il y a les petits triangles rouges de Delcourt, il me la faut. Ça, c'était avant, en fait. Les gens fonctionnaient pas mal par collection. Et aujourd'hui, les gens viennent et disent, moi ou mon neveu ou mon fils, il a adoré cet album. Donnez-moi quelque chose de la puissance de cet album ou dans le genre de cet album. Et lui, en tant que quand t'es passionné de BD ou de n'importe quelle forme d'art, c'est quand même top que quelqu'un vienne te voir et te dire ça, c'est super bien. Faites-moi découvrir un autre truc. Et en fait, il dit que les gens aujourd'hui sont vraiment adeptes de découverte et ont envie de vraiment découvrir des choses chouettes. Donc c'est parti un peu de là. Et après, il fait voyager dans le truc, il raconte l'histoire des BD, etc. C'est vraiment un super bon.
Et du coup, pour les gens qui ne sont pas parisiens, est-ce qu'il y a une tournée prévue, cette personne, en province ?
Exactement. On va mettre les dates sur le site internet.
Les Zéniths, c'est ça.
Il se fait tous les Zéniths, sauf Nantes. Parce que Nantes, c'est des cons.
Quand même pas déconner.
Nantes, c'est des cons. Je crois qu'on a pas mal d'auditeurs à Nantes.
Oui,
pour le coup, je pense qu'on a pas tant que ça d'auditeurs à Paris, je crois. Par contre, beaucoup
encore moins à Angoulême.
Beaucoup en province. Angoulême, je ne crois pas avoir vu passer, mais va savoir. Si quelqu'un nous écoute d'Angoulême, faites-nous
signe. Il y en a deux à Pellouet Lévin, je sais.
Oui, peut-être un maintenant.
finalement, elle a arrêté l'épisode 24.
Je crois qu'on a beaucoup d'auditeurs nantais, donc tu vas te prendre des messages d'insultes la vie.
J'espère bien.
Est-ce que. T'as autre chose à ajouter, pardon.
Absolument pas.
Vu qu'on est tous fatigués là. Florian, t'as un couteau de cuisine gigantesque devant toi. Pourquoi ?
Je ne sais pas. Demandons au propriétaire des lieux.
Je ne sais pas.
Très bien. Et donc ce n'est pas lié à ta recommandation ?
Aucunement. Je ne vous recommande pas les couteaux, surtout un couteau émoussé avec un bout recourbé. Je ne sais pourquoi. Non. Alors, ma recommandation, c'est quoi ? Vous me connaissez. Moi, le matin, je me lève, je me lance dans une morning routine digne d'un start-upper. Vous le savez, hein. Je me lève avec la radio, j'écoute les infos, je regarde le cours du Bitcoin pour savoir si j'ai tout perdu dans la nuit ou si je suis devenu riche.
Mm-hmm. T'as écrit une chronique, là ?
Pas loin, parce que j'avais beaucoup de choses à raconter. Mais vous le savez, du coup, je suis encore pauvre, hein, donc le Bitcoin ne s'est pas non plus enflammé. Puis après, je me change et je me lance une petite demi-heure sur mon vélo d'appartement, en m'attendant donc une série ou en écoutant un podcast. C'est là où je veux en venir. Et je vais vous donner du coup la recette de la série parfaite pour le vélo d'appartement. Ce qu'il faut pour le vélo d'appartement, c'est une série qui est simple à regarder. Genre pas prise de tête. On oublie par exemple les longues séries lentes, très verbeuses, avec des enjeux, des intrigues entremêlées, avec des ressorts scénaristiques un petit peu flous. Il faut que ça soit assez straight to the point. Il faut un truc très simple. il faut un truc aussi dynamique, parce qu'il faut du rythme. On est sur un vélo d'appartement, il ne faut pas que ça s'arrête.
On va devoir la découvrir à la fin. C'est mi-reco, mi-quiz.
Ouais, mi-quiz,
c'est vrai. C'est bon, ça. Alors là, attends, j'ai éliminé quelques séries déjà.
C'est vrai.
Bah, beaucoup. Donc, même.
Oui, quand même.
Bah, tout il, fait faut, bien,
il faut du rythme, il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas que tu vois le temps passer. Il faut que tu avales les kilomètres et les minutes facilement et sans te poser de questions. Ok. Et enfin, avec si possible, des cliffhangers de dingue pour que ça te donne envie de regarder la suite. Et donc, ça te donne une raison de te lever le lendemain matin pour, j'ai noté, enfourcher le tigre. C'est le nom que je donne à mon vélo d'appartement. Et en ce moment, ma série de vélo d'appartement, du coup, c'est quoi ?
Bah alors,
vous en doutez ou pas ? Je vous en avais déjà parlé il y a pas longtemps.
Le problème, c'est que ça va être, je pense, une série Netflix, parce que tu regardes tous les trucs Netflix, et ça va être une merde
d'émission. Une
série de merde, parce que tu regardes plein de séries de merde sur Netflix, donc je suis sûr que je ne la connais pas.
Mais si, parce qu'on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps, c'est l'attaque des Titans.
Ah.
Donc c'est une recommandation qui est à la pointe de...
Oui, mais il aime pas.
Des dernières, plus, non, pas, je mais... sais bien, mais justement, on en parlera après. Ouais. Donc c'est sorti en 2013 en France, c'est sorti avant, je crois, en 2009 au Japon. Donc autant vous dire que c'est pas tout nouveau, mais moi je m'y suis mis il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un bref résumé. Donc c'est un shonen manga, l'attaque des Titans. C'est écrit et dessiné par Hajime Isayama. Et c'est aussi du coup en série d'animation sur Netflix. L'histoire tourne autour du personnage d'Eren Jaeger. Jaeger dans le texte, mais ils disent Jaeger, c'est nippon.
C'est japonais. Ouais.
Dans un monde où l'humanité vit entourée d'immenses murs pour se protéger de créatures gigantesques nommées les Titans. On va suivre Eren et ses amis, mais aussi l'humanité qui est cachée derrière les murs dans son combat contre les Titans pour reconquérir le territoire. Mm. Donc jusque-là, plutôt une classique histoire.
Bah, Evangelion as fuck, surtout. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, hein, ouais, avec le pitch.
Et au début, du coup, on en sait très peu sur les Titans, à part le fait qu'ils mangent des humains, qui sont inactifs la nuit et qu'ils ont vraiment des gueules affreuses. Moi, c'est un truc, en tout cas, qui m'avait choqué quand j'ai commencé la série. Et c'est pour ça que je voulais pas forcément m'y mettre. C'est que je trouve que le style ne donne pas forcément envie de rentrer dans l'univers. C'est volontairement un petit peu pas horrifique, mais en tout cas, les mecs sont clairement... pas beaux, ils sont dégueulasses avec les traits.
Ils sont avec pas beaux.
Non, mais ils sont vraiment écorchés. Ils ont des très grandes bouches avec plein de dents, avec tout est extrêmement caricatural. Et du coup, je vais pas vous refaire le topo, mais ça coche toutes les cases de ce que je disais avant. C'est dynamique as fuck. Ça s'arrête jamais. Chaque épisode, ça fonce à 1000 à l'heure. T'en as vraiment dans tous les sens. Versus, par exemple, n'importe quel animé de base. Si je prends par exemple One Piece, Dragon Ball, etc. Un épisode, il se passe vraiment au final que dalle. Alors certes, ça explose dans tous les sens et tout, mais à la fin de l'épisode, au final, ils ont juste bougé d'un kilomètre ou j'en sais rien, ou ils sont montés sur un bateau, par exemple, dans One Piece. Ce qui n'est pas le cas avec l'attaque des Titans. En un épisode, il se passe énormément de choses. C'est dynamique de dingue. Je reprends ce que j'écris, parce que j'ai écrit beaucoup de choses par rapport à ça. Je disais du coup que c'était pas facile de rentrer dans l'univers, mais une fois que tu es dedans, c'est extrêmement prenant. Il y a des rebondissements à qui mieux. Tu as des cliffhangers de fou, notamment sur les fins de saison, pour savoir ce qui se passe dans l'univers et comment les Titans sont apparus sur Terre, qui sont les Titans et comment s'en débarrasser. Mine de rien, avec ça, effectivement, il fait 4 saisons et c'est quand même assez magistral. Et j'en viens à mon dernier point, ça fait que 4 saisons. Et versus tous les animés où tu as 28 saisons avec des spin-offs dans tous les sens.
Des saisons de 28 épisodes.
Exactement. Des saisons de combien là ?
C'est quand même des saisons assez longues. Je crois que tu as genre une trentaine d'épisodes par saison. Oui, quand même. Mais parce que j'imagine qu'il doit faire peut-être... Combien de semaines dans une année, Vic ?
52.
Et bah, peut-être qu'il en fait un épisode toutes les semaines ou toutes les deux semaines et avec une pause, j'imagine, un truc dans le genre. Mais il s'est dit, à la fin de... Là, il termine le manga le 9 avril. Et donc, du coup, la série, elle va faire que 4 saisons et c'est terminé, quoi. Peut-être un film pour clôturer vraiment la série, mais c'est terminé. Et ça, j'aime bien, parce que du coup, on n'est pas en train de chercher à l'aventure pour l'aventure et de vendre du shonen.
On n'est pas en train de pousser, surtout après, les Japonais.
Après, c'est vrai que c'est un défaut du monde du manga. Ouais. C'est quand même drôle de se dire, et des séries aussi, c'est drôle de se dire, c'est bien parce qu'il y a une fin.
Mais oui,
c'est drôle de se dire
souvent,
ça. C'est
comme souvent, ça va trop long.
Oui, mais c'est marrant
moi,
de se dire que c'est devenu un...
Berserk, c'est un enfer parce que ça ne finit jamais. Quoi. Et on ne sait même pas si le gars va finir un jour ou s'il va mourir avant. Quoi.
Mais parce que c'est inhérent au manga, dans le sens où ils sortent chapitre après chapitre dans des magazines. Donc, par exemple, là, l'attaque des Titans, c'est dans Shonen Magazine. Et le but, c'est de rester le plus longtemps possible dans ce magazine. Ouais. Et en fait, ils sont dérankés ou rankés en fonction des votes des auditeurs.
Prépublication, ça s'appelle, je crois. Il y a aussi, comme tu dis, l'auteur va devoir prendre les retours en compte. On n'aime pas ça.
Non, pas du tout. Et du coup, ce qui pousse, donc One Piece et consorts, ce qui pousse à faire des milliards de chapitres.
Ouais, à étirer le truc alors qu'il n'y a pas de raison.
Dans tout plein de mangas, version papier, justement, dans leur sortie, dans les Shonen, dans le Jump et tout. Ils font des enquêtes d'opinion sur les personnages préférés. Et dans les pages entre les chapitres, tu as des pages sur, OK, la dernière enquête, c'était ce personnage-là, ce personnage. Et c'est du coup, ça aide à.
Mais on en parlait un peu quand on, on est revenu des Utopiales, du coup. Où on parlait de la littérature en Chine. Ouais, c'est un peu le même principe, du coup, mais sauf que
à la demande, la
littérature, à la demande, où genre, ils se disent bon, alors, ce personnage, vous l'aimez bien, est-ce que je le tue, est-ce que je le tue pas quoi.
Ouais, c'est, enfin, c'est après, presque pareil. Après, notamment un mec, je connais pas le nom de l'auteur de L'Attaque des Titans, mais le truc ultra grand public, connu et reconnu, t'inquiète, il a sa trame en tête, il fait son truc, il suit pas non plus à fond ni les enquêtes d'opinion.
Oui,
franchement, ça va. Même sur un One Piece, par exemple, qui est très vite devenu culte là-bas, tout au début, alors que c'est devenu effectivement ultra long après. Le gars avait son histoire depuis le début. Et
bien sûr.
Importer.
Et je dis pas qu'ils le font tous, mais en tout cas, c'est peut-être inhérent au jeunes, format quoi. Des prépublications de justement d'attirer le plus rapidement possible avec un chapitre et de faire durer comme ça très longtemps, quoi. Donc, L'Attaque des Titans, ça a des défauts, et je vais vous lancer un peu sur ça juste après, comme ça vous pourrez réagir. On va pas se mentir, mais c'est des défauts du coup qui sont inhérents au genre. Les personnages sont pas méga bien construits, c'est assez caricatural. Y a un vrai aspect shonen, du coup, qu'on aime ou qu'on aime pas dans la progression et la construction du scénario.
C'est ce qui me rebute le plus. Moi, j'ai commencé, j'ai regardé 5 épisodes et c'est ce qui me gêne le plus pour l'instant.
Et sans parler du coup aussi de il y a pas mal d'incohérences dans le scénario. C'est pas des incohérences, mais c'est des raccourcis. On va pas forcément t'expliquer, ou bien on va t'expliquer genre de manière très précise, genre il se passe ça, bah c'est parce que machin il a fait ça. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Tu comprends que c'est un shonen, quoi. Tu comprends que c'est pour les adolescents et qu'il faut expliquer rapidement pour passer à autre chose, pour justement aller à l'action, quoi. Certes, c'est comme ça, c'est un shonen, c'est le genre qui est comme ça, on aime ou on n'aime pas. Mais une fois que tu passes ça, franchement, le scénario est très cool. L'illustration, une fois que tu es rentré dedans et que tu t'habitues, c'est ultra dynamique. Ça mélange un peu 2D et 3D, un petit peu justement comme tous ces séries d'animation japonaises modernes et tout. Donc c'est très chouette, c'est très canon. Et non, je vous recommande, et c'est parfait pour le vélo d'appartement.
Voilà. Mais alors, j'ai pas de vélo d'appartement, est-ce que je peux quand même regarder cette série?
Tu peux quand même, mais.
Mais par contre, il faut que tu fasses des mouvements avec tes jambes.
Ouais, il faut que
tu sois sur un canapé, tu te lèves un peu le cul, et hop, tu pédales.
Je me lève le cul, très bien.
Tu te lèves les jambes, du coup, ça te relève tout aussi.
Ok. C'est intéressant parce que, donc moi, Florian me l'avait déjà recommandé, enfin plein de gens me l'ont recommandé cette série, donc j'ai commencé. Et moi, j'ai donc grosse vibes d'Evangélion, je trouvais ça vraiment flagrant. Et c'est aussi ça qui me plaît pour l'instant, après j'ai regardé que 5 épisodes, donc bon, c'est le côté. Presque, j'ai l'impression, je me cours peut-être, mais que cette série est une métaphore et que les titans, c'est la métaphore d'autre chose. Et les murs que tu peux pas sortir, les villageois peuvent pas, enfin les humains peuvent pas sortir de ces murs, tout ça peut être une métaphore de quelque chose. L'Évangélion, je crois que c'est la dépression, la métaphore ou un truc comme ça. J'ai l'impression que ça ressemble à ça. Peut-être que je me gourre, mais en tout cas, c'est ça qui me plaît pour l'instant. Et après, effectivement, le côté shonen est un peu relou. Je pense que je suis un peu vieux pour les shonen, mais bon. L'univers est cool quand même.
Ouais, bah c'est exactement ce que je m'étais dit à la base. Ouais. Je suis trop vieux pour ces conneries, quoi. mais non, au final, une fois que tu passes au côté shonen, qui au final est assez court, mine de rien, dans la série, genre après le milieu de la première saison,
c'est fini.
C'est quasiment fini.
Ouais, tu vois, c'est bien alors.
Donc après, certes, t'as quand même des rebondissements et tout, donc t'as quand même trucs qui font progresser. Je dis truc depuis le début parce que j'évite de spoiler parce que c'est vraiment une série à spoil.
Ouais, j'imagine. Ouais. Bah ça se voit en plus. Hein, ça se ressent vachement.
Mais non, une fois passé ça, franchement, tu étais vraiment hypé par le truc, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu le shonen un peu moderne, justement, quoi, qui cherche pas à être, être long et tout ça. Enfin,
il a soigné un peu ses défauts de shonen. Hein, donc c'est bien, c'est très bien. Formidable, merci.
Après, je pense que la plupart des gens connaissent parce que c'est sorti en 2009.
Oui, les gens vont dire,
depuis.
Elle était nulle, ta recommandation.
Désolé.
Non, on l'aime bien, ta recommandation.
Merci.
Je rigole.
Il a recommandé un magasin.
Non, un vendeur de magasin.
C'est vrai, le propriétaire, tout à fait.
J'ai recommandé Magic, un jeu de cartes donc dans le genre. Elles sont nulles, nos recommandations. On va arrêter, on va
faire
presque
une actu plus qu'une.
Oui, c'est genre, qu'est-ce que je fais dans ma vie en ce moment. C'est un peu ça.
Et moi, c'était juste pour dire que je faisais du vélo, quoi.
En fait, tu recommandes le vélo, quoi.
Ouais, non, pas forcément. En plus, le mien est tout pourri, c'est un Domios. Voilà.
Et
donner de l'argent pour m'acheter un plus beau vélo, quoi. Mais est-ce que ça existe un beau vélo d'appartement?
Je suis pas sûr. Si, je pense.
Ah ouais.
Si,
okay. Bah, vélo d'appartement comme il y a les
dans l'espace là.
Ah, peut-être.
Ouais, un vélo d'appartement comme il y a le rameur dans House of Cards.
Mais j'adorerais.
Oh là là, il est pas mal. Hein. Ah, un truc hydraulique et tout, tu pédales
en noyer et en même temps, t'as de l'eau et tout.
Ouais, ça serait cool.
Bien. Musique ou pas? Musique.
Bien sûr, musique.
Allez, DJ Vicoche.
Je l'ai mis au pif, j'ai mis ces musiques de Cyberpunk là.
Elle baisse un peu quand même.
Violente en plus.
La 5, elle est bien.
Je sais pas, peut-être. Laisse la 5 si tu souhaites.
Enfin, un truc de techno.
Baisse un peu, non ? Il faut qu'on puisse entendre parler, sinon je pense.
Voilà, on s'en fout, c'est pour dire bonjour.
Pour dire au revoir.
Il est... Oui,
c'est pour dire au revoir. Pas dire bonjour, bonjour, c'est au début. Au revoir, c'est après.
Dans une boîte de nuit, t'es un petit peu obligé de crier, Thomas.
Ouais, mais moi je suis pas très boîte de nuit, vous savez.
Eh ben, si. En 3021, tu seras boîte de nuit.
Mes enfants le seront.
Et tes descendants.
Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit dans un mois.
On se dit dans un mois.
C'est ça qu'on va dire.
Dans un mois, on sera. Avec un coup de bol, on sortira du confinement.
Et on se reverra.
Si, Jean Castex,
il a dit la
vérité. Jean Perpignan, il a dit la vérité et que du coup, on est confiné que pendant un mois. Ouais, j'ai du mal à y croire, mais bon, pourquoi pas.
Donc, mais ça se tente. Moi, ça se croit. Moi, je crois Jean Castex. Jean Castex.
Jean Castex.
Et l'accent devient de plus en plus.
Moi, j'arrive pas à le faire sur l'accent. C'est pas l'accent du sud tout à fait, c'est sud-ouest, non, je pense.
Oh, oui.
Jean Castex, j'y arrive pas. Bref. Écoutez, les amis, on se retrouve dans un mois en attendant réseaux sociaux, amour, partout sur vos corps et sur vos petits doigts.
T'as vu comme la musique un peu dénervée, ça redonne. Ouais, on est fatigué, on est là. Allez, en attendant, Jean Castex.
On devrait se mettre dans nos casques, on devrait mettre une oreille pour le podcast, une oreille du gros
avec
son
du gros
et genre, on est là. Ouais.
Justement, moi j'ai écrit sur cette musique parce que je savais dans quel univers ça allait être.
Tu transpirais.
Et du coup, ça modifie tellement ta façon d'écrire. Ah, et t'es là.
On est en train de dire au revoir, mais c'est pas le moment. Et moi j'écris quasiment à chaque fois sur la musique qu'il y aura. Parce que ça m'aide vachement.
Quand tu le sais d'avance, oui.
Bah, je le sais d'avance en général.
Ouais, mais moi non, pas tout le temps. Mais là, c'est pour ça que j'ai fait un truc. Dark as fuck, quoi.
Ouais. Très bien, dark as fuck, mais lumière et amour sur les auditeurs.
Alors, merci la commu.
La commu. Bisous, bisous à nos auditeurs. Merci de nous soutenir, de nous envoyer des messages, de nous écouter, de partager, de tout ça.
Et gloire à Johnny Hollywood.
Et gloire à Satan. Bisous, bisous.